Mesdames et Messieurs les députés, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, nous reprenons nos débats au point 10. Motion numéro 276, retenue de salaire envers un fonctionnaire ou un enseignant exerçant un mandat de parlementaire fédéral. Je donne la parole à Monsieur le député Victor Giordano.
Mesdames et Messieurs, l'idée essentielle de la motion relative à une retenue envers un fonctionnaire ou un enseignant exerçant un mandat politique fédéral repose sur le souci d'équité. Il n'est pas équitable, en effet, qu'un travailleur perçoive deux rémunérations tout en exerçant qu'une seule charge. On doit admettre qu'on ne peut à la fois siéger à Berne ou dans une commission fédérale et simultanément exercer sa profession de fonctionnaire ou d'enseignant dans le Jura. En plus de ce fondement, que je dirais inspiré par le bon sens, la motion du groupe chrétien social se fonde sur l'ordonnance concernant les traitements, les vacances et les fonctions accessoires du personnel de l'État, dont l'article 18 est entré en vigueur le 1er mars 1983. Cet article a la teneur suivante. Les représentants du Jura aux chambres fédérales bénéficient des congés nécessités par la durée des séances plénières de l'Assemblée à laquelle ils appartiennent, sous réserve d'une éventuelle réduction équitable de leur traitement. Fin de la citation du texte. Déposée le 24 septembre, soit avant les dernières élections fédérales, la motion ne se fonde sur aucune considération de personne, le nom des élus actuels n'étant alors pas connu. En préambule, nous évoquons le jugement de la Chambre administrative du tribunal cantonal du 18 décembre 1985, acceptant un recours du conseiller national Pierre Hettich contre une décision du gouvernement qui lui imposait une retenue de salaire. Si ce jugement annule effectivement la décision gouvernementale, il n'en conteste pas la validité juridique. Au contraire, en page 7 des considérants, il indique même clairement, et je cite, que l'ordonnance précitée doit être appliquée s'agissant d'une retenue de salaire frappant un enseignant ou un fonctionnaire siégeant à Berne. Fin de la citation. La Chambre administrative ajoute que l'article 18 de cette ordonnance exige, et je cite à nouveau, que l'autorité compétente dise d'abord si une réduction de traitement doit être opérée et, le cas échéant, fixe celle-ci de manière équitable, c'est-à-dire en tenant compte de la situation concrète. Fin de la citation. Le tribunal cantonal définit donc clairement que le gouvernement doit examiner dans chaque cas la manière dont il faut appliquer l'ordonnance en cause. Or, aujourd'hui, le gouvernement n'applique pas l'ordonnance qu'il a lui-même promulguée, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes. C'est pourquoi notre motion, qui ne peut avoir pour objectif de modifier une ordonnance, demande au gouvernement d'établir de nouvelles bases légales claires. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce qui touche l'aspect juridique de cette motion. Sur le fond de la question, nous sommes d'avis que si un enseignant siégeant à Berne paye son remplaçant, ils ne doivent concéder aucune retenue de salaire. Nous reconnaissons aussi que les élus fédéraux peuvent rendre d'appréciables services à notre canton et qu'ils le font en réalité, ce qui justifie de ne pas appliquer une retenue strictement mathématique en fonction de leurs absences effectives. Nous pouvons aussi admettre qu'un chef de service puisse assurer la marche administrative de ses subordonnés, du moins en grande partie, tout en siégeant à Berne. En revanche, la situation d'un secrétaire administratif diffère notablement, de telle sorte que le gouvernement doit examiner, dans chaque cas, si une retenue se justifie ou non. Une remarque encore concernant le dernier alinéa de notre motion, qui se termine en disant que la retenue, et je cite, « devrait être d'au moins 25% du traitement ». Chacun sait en effet que siéger à Berne, dans les commissions, au Conseil de l'Europe ou dans son groupe parlementaire, accapare un élu fédéral durant près de la moitié de son temps. Dans ces conditions, nous avions pensé qu'une retenue d'un quart de son salaire pourrait être jugée équitable. Mais il est évident qu'en mentionnant cette proportion, nous n'entendions pas la considérer comme une exigence formelle dont le non-respect trahirait la motion. Si telle avait été notre intention, nous aurions écrit que cette retenue doit ou devra être de 25%. L'usage d'un verbe au conditionnel indique bien que nous considérons ce pourcentage comme proche de l'équité. Cependant, il semble que cette fin de texte pose quelques problèmes au gouvernement et qu'il soit notamment à l'origine de sa proposition de rejet de notre motion. Aussi, afin de clarifier la situation, nous maintenons notre motion et nous avons jusqu'au terme cette question, réglant cette question, c'est-à-dire à la deuxième ligne du dernier paragraphe. Et nous abandonnons, comme nous le permet le règlement, nous abandonnons le reste du texte de la motion. Dans ces conditions, nous vous invitons, mesdames et messieurs, à accepter le texte de cette motion, étant entendu qu'elle s'arrête au milieu de la deuxième ligne du dernier paragraphe, c'est-à-dire, je lis ce texte, c'est pourquoi nous invitons le gouvernement à présenter au Parlement des dispositions légales réglant cette question, point, et le reste du texte est abandonné. Nous vous remercions de soutenir cette motion ainsi modifiée.
La parole est au représentant du gouvernement, Monsieur le ministre Pierre Boyat.
Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le développement qui vient d'être fait indique que le motionnaire s'est rendu compte, comme nous d'ailleurs, que son texte était extrêmement rigoureux et ne permettait pas la souplesse qui, dans cette matière, devrait pourtant être appliquée, ceci selon les dispositions du tribunal cantonal et précisément l'arrêt qu'il a rendu en date du 18 décembre 1985. Et le gouvernement, vous l'avez constaté sur les communications que nous vous avons faites, ne pouvait en aucune manière souscrire à la motion telle que rédigée par l'intervenant M. Jordan. En effet, nous ne pouvions accepter une motion fixant pour les fonctionnaires ou enseignants exerçant un mandat de parlementaire fédéral une retenue de salaire qui, vu les exigences de tel mandat, devrait être d'au moins 25% de leur traitement. C'est la raison essentielle pour laquelle nous avons refusé la motion, ceci eu égard au fait qu'il n'y a pas de distinction faite entre fonctionnaires et enseignants, et eu égard au fait que la retenue de salaire devrait être, je cite, d'au moins 25%. Cela se situait tout à fait en contradiction avec ce qui est dit aussi dans ce fameux jugement cité par Victor Giordano en page 12, où il est dit: cela justifie certainement que chaque cas soit traité en tenant compte de ses aspects particuliers. C'est d'ailleurs ce que veut l'article 18 de l'ordonnance concernant les traitements, les vacances et les fonctions accessoires autorisées du personnel d'État, qui prévoit une éventuelle réduction équitable de traitement. Comme il a été dit plus haut, cela impose à l'autorité compétente de dire d'abord si une réduction de traitement doit être opérée et, cas échéant, de fixer celle-ci de manière équitable, c'est-à-dire en tenant compte de la situation concrète. Et ce jugement, il faut quand même le dire, avait conduit, c'est considérant, avait quand même conduit la Cour administrative du tribunal cantonal à annuler une décision du gouvernement du 28 juin 1984 et à faire en sorte que l'intéressé par cet arrêté puisse bénéficier de l'entier de sa rémunération professionnelle. Alors, en face de cela, nous n'avions pas d'autre possibilité que de rejeter purement et simplement la motion. Toujours est-il que cette question de retenue de salaire ou de compatibilité de l'exercice cumulé d'un mandat parlementaire fédéral et d'un fonctionnaire ou enseignant pose à l'évidence quelques problèmes qui devraient être réglés, c'était l'avis du gouvernement, conformément aux directives de l'arrêt de la chambre administrative du tribunal cantonal, c'est-à-dire en prenant chaque cas particulier, étant donné qu'un directeur d'école, respectivement un enseignant, peut se trouver dans une situation tout à fait différente de celle d'un fonctionnaire, l'enseignant ayant tout loisir de se faire remplacer sans autre et de payer son remplaçant, comme cela est arrivé pour certains de ceux qui ont assumé des charges cumulatives d'enseignants et de parlementaires, soit au niveau fédéral, soit au niveau cantonal. Aujourd'hui, on m'annonce, et je dois dire que je suis prompt à, généralement, à la réplique, mais on m'annonce, il y a à peu près 8 minutes qu'on a changé de stratégie, et mes collègues viennent à peine d'arriver pour que j'ai pu à peine les consulter sur l'affaire. On m'annonce qu'on s'arrête ou qu'on est prêt à s'arrêter à la moitié de la phrase du dernier paragraphe de la motion et on admet que cela justifie en fait ce que l'on appelle d'après le règlement un fractionnement. Est-ce que vraiment on peut appeler ça un fractionnement? Je ne sais pas si le fractionnement est possible dans la mesure où l'on demande non pas seulement une chose, mais deux. Ici, on ne demande en fait qu'une chose, tout en précisant ce que l'on veut. Et cette question de fractionnement peut naturellement être posée. C'est une chose que le bureau du Parlement devrait pouvoir examiner et à laquelle il devrait pouvoir nous donner une réponse. Et puis ensuite, il faudrait quand même que le gouvernement puisse reprendre le problème, que les groupes puissent aussi le reprendre, à mon avis, parce que les choses se présentent différemment. Si l'on veut réglementer absolument, on peut l'envisager, mais pas de n'importe quelle manière. Et je crois que la manière qui avait été proposée était extrêmement rigide et contraignante, laissait la place d'ailleurs à l'inégalité de traitement, puisqu'on voulait un traitement, ou plutôt un régime uniforme, quelles que soient les situations en cause. Et si l'on veut envisager autre chose, je crois que chacun devrait pouvoir, à mon sens, reprendre le problème et le réexaminer. C'est la raison pour laquelle, après avoir consulté mes collègues du gouvernement, je pense que le Parlement serait bien inspiré de suivre la proposition qu'on fait, de renvoyer en fait cet objet pour que l'on puisse le reprendre et traiter cette affaire d'une manière sereine. Je pense que cela peut être fait. Et si moi-même je n'en ai pas la compétence au niveau du règlement, je pense bien que l'un ou l'autre d'entre vous sera bien inspiré, si nécessité il y a, de déposer une motion d'ordre dans le sens de ce qui a été préconisé. Mais je réaffirme pour l'essentiel que, telle qu'elle est présentée, la motion ne peut être acceptée par le Parlement pour les motifs que j'ai brièvement rappelés, vu la tournure des événements. Je n'ai pas voulu faire un développement absolument exhaustif de notre argumentation.
Monsieur le député Victor Giordano, en fonction des explications données par Monsieur le ministre, est-ce que vous maintenez votre motion? Vous maintenez la motion? Et vous la maintenez, donc vous considérez qu'elle est fractionnée donc, sur un cours de phrase, si je prends donc la remarque que vous avez faite tout à l'heure, c'est pourquoi nous invitons le gouvernement à présenter au Parlement les dispositions légales réglant cette question. Point terminé. Monsieur le député Philippe Petignat.
Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, je crois qu'en toute logique et au vu des explications fournies par le ministre Pierre Boya et s'il veut, je dépose une motion d'ordre et je demande le renvoi de cette motion de manière à ce que tous les groupes aient le temps et le gouvernement d'étudier cette matière de manière beaucoup plus approfondie.
La discussion générale est ouverte, monsieur le député Pierre-Alain Gentil.
Mesdames et messieurs, il me semble qu'on fait beaucoup de bruit pour une chose qui est simple. Notre règlement est formel. Article 67, alinéa 9. Lorsqu'une motion ou un postulat est susceptible de fractionnement, les divers points peuvent donner lieu à des votes séparés, moyennant l'accord de l'auteur ou du député qui a développé cette intervention. Alors, on peut très bien... Il y a deux éléments dans le dernier paragraphe. Et le premier élément consiste à demander au gouvernement de présenter au Parlement des dispositions légales réglant cette question. Quoi ? Et il y a un deuxième volet qui donne quelques éléments qui devraient inspirer cette mesure. En ce qui concerne le groupe socialiste, est d'accord avec la première partie de la phrase, donc le principe, réglons une bonne fois cette affaire. Par contre, nous ne sommes pas d'accord avec la dernière partie qui prétend déjà régler un problème qu'on nous demande d'examiner. Et je ne vois pas franchement la nécessité qu'il y a de renvoyer ça devant les groupes pour une discussion approfondie. Ou bien on est d'accord que ce problème-là doit être examiné et que le gouvernement doit proposer des dispositions au Parlement, et on vote et on attend les propositions du gouvernement, ou bien on estime qu'il n'y a pas lieu de régler cette affaire et on rejette la motion. Je trouve qu'il n'y a absolument aucun problème, ni de procédure, ni de consultation dans les groupes pour un problème qui est relativement simple. Est-ce qu'on veut un projet du gouvernement ou non ? Pour notre part, le groupe socialiste, nous souhaitons une proposition du gouvernement, mais nous ne souhaitons pas adopter la fin de la motion qui, à notre avis, est trop précise compte tenu de tous les éléments qu'a donné d'ailleurs le propre auteur de la motion.
La discussion est toujours ouverte sur la motion d'ordre. Monsieur le député Georges Reiss.
Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, une certaine confusion s'instaure. Il se pourrait que, à la faveur de ce qui est en train de se passer maintenant, chaque fois qu'on discutera d'une motion ou d'un postulat, on se mette en cours de discussion à s'arrêter, à savoir si la chose est susceptible ou pas d'être fractionnée, puis à lancer une motion d'ordre pour savoir si finalement on va retirer le point de l'ordre du jour pour relancer le débat sous une autre forme. Il semblerait que tout cela nous conduise à ce qu'on appelle l'instauration d'un précédent qui ne nous rendrait pas service. Raison pour laquelle je vous propose de procéder à une suspension de séance d'une part et d'autre part à provoquer une réunion immédiate du bureau du Parlement pour statuer sur la procédure.
Je considérerai qu'il y a deux motions d'ordre ici, suspension de séance et puis donc une motion d'ordre sur le fond du problème pour gagner du temps. Alors j'invite rapidement les membres du bureau à se retrouver ici devant la tribune et suspension de séance durant quelques minutes. La majorité donc du bureau du Parlement a décidé que dans la situation actuelle, la motion numéro 276 ne pouvait être fractionnée. La motion étant donc combattue, la discussion générale est ouverte. Monsieur le député Victor Giordano.
Mesdames et messieurs, on peut premièrement se demander s'il appartient au bureau de décider si une motion peut être fractionnée ou pas, contrairement aux dispositions de notre règlement. Comme on ne peut pas trancher cette question maintenant, je ne l'aborderai pas plus à fond. Je maintiens donc le texte intégral de ma motion, sans s'arrêter à cette question au dernier paragraphe au milieu de la deuxième ligne. J'explique une nouvelle fois que le terme devrait être est une indication au conditionnel qui n'a donc aucune valeur décisive et qui, si elle n'était pas respectée, n'entraînerait pas une trahison du texte de la motion. Par conséquent, je suis d'avis que vous pouvez sans autre accepter cette motion. Et j'ajouterai un dernier élément. Si, malgré tous les éléments absolument favorables qui ont été énumérés, vous étiez encore d'avis que cette motion doit être refusée, vous placeriez le gouvernement dans une situation extrêmement difficile. En effet, admettons que la motion soit refusée. Dès demain, il existe toujours une ordonnance dont l'article 18, cité par la chambre administrative du tribunal cantonal et que j'ai évoqué à plusieurs reprises, prévoit que l'autorité compétente doit examiner si une réduction éventuelle de traitement est équitable ou pas. Le refus de la motion nous amènerait donc à placer le Parlement devant la situation suivante. Doit-il ou non appliquer une ordonnance qu'il a promulguée lui-même ? Il me semble évidemment plus élégant, plus habile et plus intelligent politiquement d'accepter la motion avec les précisions que j'ai données et qui figureront au journal des débats quant au 25% et de permettre ainsi au gouvernement de régler cette question de manière claire et précise, ce que les dispositions actuelles ne permettent pas de faire. Dans ces conditions, je vous invite à accepter la motion et vous en remercie.
La discussion générale est toujours ouverte. Elle n'est plus utilisée. Elle est close. Monsieur le ministre.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le petit exercice de procédure auquel il vient d'être procédé a tout de même démontré que la motion telle qu'elle était conçue par le motionnaire était par trop contraignante, et c'est dans ces termes et pour ce motif-là que le gouvernement avait envisagé le rejet de cette motion. Et je crois que les explications qui nous sont données aujourd'hui, qui constituent malgré tout un retrait, ne peuvent pas nous faire changer de position. Il est clair que le problème demeure et nous devrons le régler, soit à la faveur de l'ordonnance telle qu'elle a été rappelée, soit à la faveur d'une autre ordonnance, soit à la faveur de dispositions légales. Mais pour le bon ordre des choses, en ce qui concerne cette motion, nous ne pouvons pas modifier la position que nous avons expliquée. Je rappelle que la motion en cause s'adresse aux fonctionnaires ou enseignants d'une manière absolument identique et que la réduction devrait être d'au moins, il y a bien un conditionnel, mais il y a aussi quand même le minimum qui est posé de 25% de leur traitement, et cela nous paraît être une mesure qui pêche par un excès d'uniformité.
L'auteur de la motion désire-t-il encore s'exprimer ? Ça ne semble pas être le cas. Nous allons donc voter. Les députés qui acceptent la motion numéro 276 sont priés de le manifester par levée de main. Scrutateur. Avis contraire. La motion numéro 276 est rejetée par 30 voix contre 12. Nous passons au point 11, interpellation numéro 183, Lucelle, vente de terrain au DMF. Je donne la parole à monsieur le député Charles Racordon.
Monsieur le Président, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les députés. La réponse fournie par le gouvernement à ma question écrite numéro 641 relative à l'activité militaire à Lucelle ne m'a pas donné satisfaction. J'interpelle aujourd'hui le gouvernement afin d'en connaître un peu plus sur cette nouvelle affaire qui soulève une certaine indignation dans la population et en particulier dans le secteur concerné, tant du côté suisse que du côté français. J'ai le sentiment et même la conviction qu'au départ, tout a été orchestré dans l'ombre, et j'aimerais aujourd'hui savoir de la part de Monsieur le ministre depuis quand le gouvernement est réellement au courant d'une activité militaire à Lucelles et des tentatives de transactions immobilières, toutes choses maintenant connues. Je n'ai pas pour ma part de grandes connaissances en matière militaire. Il m'a été rapporté toutefois discrètement par quelques spécialistes de ce genre d'activité quelles avaient été les armes utilisées lors d'exercices qui se sont déroulés à Lucelles. Je cite : tir au fusil d'assaut, utilisation d'armes automatiques, lâcher de grenades, tir à l'obus, exercice anti-char. De l'avis même des praticiens, le lieu n'est pas adapté pour de tels exercices. Et j'ajouterai qu'en janvier, par exemple, il y a eu 11 avis de tir à Lucelles. C'est beaucoup, c'est trop. Voilà pour certains faits brièvement décrits au niveau de l'activité militaire. Je pourrais ajouter encore toutes les nuisances que provoque une telle activité dans le secteur et renouveler à cette tribune les protestations justifiées et fondées des communes et des établissements du lieu. La presse s'en est faite l'écho. La pétition a obtenu le succès que vous savez. Finalement, il en va de la qualité de vie des gens de ce coin de pays. Ma démarche se situe sur un autre plan, c'est-à-dire au niveau politique. Quel a été jusqu'ici et quel est le rôle joué par l'État jurassien dans cette affaire? Que peut-il faire et, à mon avis, que devrait-il faire? J'ai posé tout à l'heure une première question. Depuis quand êtes-vous réellement au courant? Dans votre réponse à ma question écrite, sous point 8, vous mentionnez ce qui suit. Je cite. Pour le surplus, le gouvernement tient à faire savoir qu'un accord entre le département militaire fédéral et lui-même stipule clairement que toute convention visant à une utilisation accrue de la place de tir de Noirval nécessite l'approbation préalable du gouvernement cantonal. Fin de la citation. Il y a donc eu accord entre le gouvernement et le DMF quant à l'utilisation de la place de tir de Noirval. J'aimerais que le texte de cette convention ou de cet accord soit porté à la connaissance du Parlement. Sous chiffre 5 de votre réponse, toujours à ma question écrite, il est mentionné. Cet office, il s'agit de l'office de coordination numéro 4, n'a pas l'obligation formelle d'informer les autorités cantonales quant à l'utilisation des différentes places de tir du canton du Jura. Sauf, et c'est là que c'est important, sauf en cas d'événement ou d'activité particulière. Or, si vous avez passé un accord, comme tout le laisse penser, c'est vous qui l'écrivez d'ailleurs, c'est que vous admettez d'emblée que ce qui se passe à Lucelles sort de l'ordinaire. Nous voilà au cœur du problème. Et je ne pense pas que la population jurassienne soit prête à accepter une nouvelle implantation militaire sur le territoire cantonal. Avec Bure, le Jura a assez donné. Il y a eu les Franches-Montagnes, puis Calabrie. Ces tentatives ont toutes échoué, comme vous le savez, eh bien Lucelles ne passera pas. Monsieur le ministre, vous devez renoncer à ce projet. À défaut, je crains que les tirs pratiqués et qui viendraient à se poursuivre n'atteignent des cibles que vous ne souhaitez certainement pas. Alors, Monsieur le ministre, je vous demande clarté, franchise et courage dans cette affaire.
La parole est au président du gouvernement, Monsieur le ministre François Lachat.
Monsieur le président du Parlement, Mesdames, Messieurs les députés, j'aimerais ici qu'on m'écoute très clairement. Il n'a jamais été, évidemment, dans les vues du gouvernement, d'accepter le projet tel qu'il vient d'être décrit. A contrario, nous ne pouvons en aucune manière renoncer à un projet puisque celui-là n'est pas nôtre. Deuxièmement, je pense que je ne suis pas tout à fait un spécialiste de la langue de bois. Alors venons-en maintenant au fond. Depuis l'entrée en souveraineté, il est effectivement vrai qu'un certain nombre de tirs ont été effectués à Noirval et toujours, j'insiste, toujours, sauf trois exceptions, par des troupes jurassiennes. Et cela en 1979, en 1981, en 1983, en 1984, 85, 87 et 88. Le gouvernement, qui a encore traité cette affaire hier matin, doit constater que l'émotion populaire à laquelle il a été fait allusion ne s'est manifestée qu'après, je dis bien qu'après le fait qu'aient été rendues publiques les intentions de M. Antoine Ackermann de vendre ou de louer au département militaire fédéral la combe de Noirval. Et pourtant, une conférence de presse a été organisée par le commandant de la 3e brigade frontière, M. Jacques Saucy, et cela en 1985, avec démonstration des armes utilisées, lesquelles n'ont jamais été autre chose que des armes d'infanterie, à savoir fusils d'assaut ou mousquetons, puisque les troupes jurassiennes, il y a presque des antiquités qui servent encore dans les troupes jurassiennes, notamment dans la brigade, puisque les hommes servent jusqu'à 50 ans. Des mitrailleuses du même calibre que le fusil d'assaut, à savoir 7-5. Des tubes roquettes anti-chars avec la munition d'exercice, à savoir une tête de J. Et des grenades. Le gouvernement a toujours été très clair au sujet de Noirval. Et il n'entend, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, il n'entend en aucune manière voir la combe de Noirval devenir une succursale, voire une extension de la place d'armes de Bure. Par contre, il voit bien, et les termes de la législation fédérale sont explicites sur ce point, le gouvernement n'entend en aucune manière laisser les troupes jurassiennes sans possibilité de s'en tenir au tir. Nous entendons par troupes jurassiennes les troupes de la 3e brigade frontière et du 9e régiment d'infanterie. Si le gouvernement n'entend pas voir Noirval devenir une succursale ou une extension de la place d'armes de Bure, c'est qu'il a déjà entrepris toute démarche utile à ce sujet. Citons tout d'abord la presse qui a interviewé Maître Jacques Saucy et je cite « En cas d'extension, une convention entre les autorités fédérales et le canton stipule une autorisation préalable du gouvernement est nécessaire. » Fin de citation. Sachez aussi, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, qu'un premier accord verbal a été confirmé par lettre au mois d'octobre 1987 par M. Souter, chef de l'Office des troupes mécanisées et légères. Celui-ci écrivait au gouvernement dans les termes suivants, je cite, « En me tenant strictement à nos accords verbaux que vous mentionnez, je n'ai pris aucune initiative auprès de M. Ackermann. C'est au contraire celui-ci qui, en date du 7 octobre 1987, m'a envoyé la lettre annexée. Je n'ai fait donc qu'accuser réception de sa lettre. » Fin de citation. Comme vous pouvez donc le constater, le département militaire fédéral n'a en aucune manière transgressé l'accord passé entre lui et le gouvernement cantonal. Pour le surplus, L'exécutif jurassien s'est adressé au Conseil fédéral Arnold Kohler, chef du département militaire fédéral, pour lui dire, et je cite, « L'utilisation de la place de Lucel correspondrait de fait à une extension de la place d'armes de Bure. La réalisation de ce projet n'est pas envisageable. Elle ne ferait qu'accroître les désagréments, telle l'augmentation du bruit, la présence de troupes dans un site touristique connu, l'accentuation du trafic routier par des colonnes de véhicules militaires sur les routes conduisant à Lucel. Au vu de ce qui précède, nous vous suggérons d'étudier la possibilité de construire une place de tir de combat dans le périmètre de la place d'armes de Bure. Nous pensons que cette solution est réalisable avec les moyens techniques actuels. Nous pourrions alors, dans le cadre de la construction de la route nationale Transjurane N16, mettre à votre disposition des matériaux pour la confection des pare-balles. Fin de citation. Le chef du département militaire fédéral a jusqu'à ce jour accusé réception de la lettre du gouvernement, et cela en date du 18 février de cette année. Dans sa lettre, il nous annonce qu'il va répondre au fond ultérieur. Comme vous pouvez donc le constater, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, le gouvernement jurassien a suivi dans cette affaire une ligne de conduite claire et nette. Oui à des exercices de tir par les troupes jurassiennes, comme cela se fait depuis la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas, et tous les deux ans. Non à une extension de la place d'armes de Bure. Je crois donc en nous du gouvernement que nous pouvons, mais vous aussi avec nous, rassurer les populations concernées. Cette ligne de conduite du gouvernement, elle est identique depuis le début de l'entrée en souveraineté. Elle est confirmée par des écrits, dont notamment ceux auxquels je viens de faire allusion. Ainsi, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, le gouvernement pense avoir répondu aux questions posées par Monsieur le député Racordon et apaisé l'inquiétude manifestée ces derniers temps.
Monsieur le député Charles Racordon, vous répondez tout d'abord si vous êtes satisfait ou non. Monsieur le député Charles Racordon est satisfait de la réponse. Demandez l'ouverture de la discussion. Il faut donc 12 députés pour l'ouverture de la discussion. Les personnes qui sont favorables à l'ouverture de la discussion sont priées de manifester par levée de main. Monsieur le député, vous avez la parole.
Voilà, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, je prends acte de la déclaration de Monsieur le ministre François Lachat. Je constate que le gouvernement est sensible au mécontentement qui s'est manifesté au sein des populations concernées par cette affaire. Voilà une attitude qui me donne satisfaction et qui diffère quelque peu de l'état d'esprit que j'avais cru déceler dans la réponse à ma question écrite, je le dis ouvertement. L'objectif qui consiste à faire cesser toute activité militaire à Lucel demeure et peut être atteint si le DMF consent à aménager des installations adéquates à Bure. Je m'étonne tout de même d'apprendre que l'accord passé entre le gouvernement et le DMF ait été verbal. Paraît-il qu'il y a une lettre qui confirme ensuite cet accord, mais au départ, il semble bien que cet accord ait été verbal. Sur l'ensemble de votre réponse, je me déclare donc satisfait. Je reste néanmoins dans l'attente de savoir quelle sera l'attitude du pouvoir fédéral à la démarche du gouvernement jurassien. J'apprécie votre détermination de dire non à toute extension des activités militaires à Lucel, mais je précise aussi que l'intention est qu'il n'y ait plus d'activité du tout à Lucel, que ce soit pour les troupes jurassiennes ou pour des troupes de l'extérieur. Ceci à terme, dans un premier temps, bien entendu, qu'il faut permettre d'aménager des installations ailleurs. Et on peut consentir à cette période qui permettrait aux troupes jurassiennes d'encore pratiquer à Lucel. Mais la balle est dans le camp fédéral et nous attendons avec impatience la réponse à la démarche du gouvernement jurassien.
La discussion continue. Monsieur le député Pierre Guignat.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, à mon avis, le gouvernement devrait, l'affaire Musset devrait le lui avoir appris, devrait se méfier des accords verbaux. Hein? Ce que je constate, après les explications fournies par Monsieur François Lachat, c'est que la population, à 80%, a signé une pétition qui demande l'arrêt de tous les exercices militaires dans la zone de Lucelle. À ces 80% de la population s'ajoutent les 301 signatures, je prends le chiffre du pays, qui ont été recueillies par les maisons de retraite de Sainte-Catherine et de Saint-Bernard. La population ne veut pas d'activité militaire dans la zone de Lucelle. Si le gouvernement nous renseigne aujourd'hui sur ses tractations avec le département militaire fédéral, il ne dit rien en revanche de celles qui sont en cours entre le tenancier de l'auberge de Lucelle et le département militaire fédéral. Des tractations qui apportent la preuve d'une véritable tromperie, et j'irai jusqu'à dire d'une escroquerie morale à l'égard de toute la population. Des tractations dont les ressorts ne sont apparus qu'à la faveur de la lettre qu'un vent favorable a poussée jusque sur la table de travail du rédacteur du Jura Libre et dont le fac-similé indique clairement qu'il y a entre le propriétaire de la combe de Noirval et le chef des troupes légères, le divisionnaire sous terre, des discussions pour l'implantation à Lucelle d'une place d'armes camouflée. Il faut appeler les choses par leur nom. On parle, en se retranchant derrière des obligations constitutionnelles, le gouvernement parle des terrains que les propriétaires sont tenus, si nécessaire, de mettre à disposition des exercices militaires pour l'entraînement de la troupe. Il ne dit pas un mot de cette transaction en cours, certainement, entre le département militaire fédéral et le propriétaire de la combe de Noirval, qui consiste à faire semblant de louer, contre une rente d'ailleurs parfaitement exagéré, à faire semblant de louer ces 8 hectares à l'armée, alors qu'en réalité, il s'agit de les lui vendre. Et c'est sur ce point que nous aimerions, quant à nous, être tout à fait rassurés. Parce que ce qui est en train de se passer, en dépit des assurances que nous apporte François Lachat aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est bel et bien l'implantation d'une place d'armes dans la combe de Noirval. Nous demandons au gouvernement, par conséquent, d'apporter un jugement sur cette manière de procéder de la part d'un propriétaire à Lucelle et de nous rassurer tout à fait, de nous donner l'assurance qu'il ne sera plus procédé, même avec des troupes jurassiennes, à des exercices militaires dans cette région dont ce n'est nullement la vocation.
La discussion continue. Monsieur le député Hubert Ackermann.
Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, mon propos ne se veut pas polémiste, cependant je me dois de vous faire part du sentiment de la région concernée. Le 6 avril 1124 eut lieu à Lucelle l'inauguration du nouveau monastère cistercien. L'abbé historien Chèvre, dans son ouvrage consacré à l'histoire de Lucelle, pose la question suivante. quel était ce lieu et pourquoi fut-il choisi? Et il apporte la réponse suivante. Pour qu'une abbaye cistercienne y fût fondée, il devait répondre à certaines conditions, dont la première, la seule vraiment précise posée dans l'ordre, était ainsi formulée. La place de nos monastères est, non pas dans les villes, les bourgs et les villages, mais à l'écart du commerce et des hommes. Et l'auteur conclut ainsi, une solitude assura la paix et le silence, un excellent point d'eau, de grands bois, n'était-ce pas l'endroit rêvé pour une abbaye cistercienne? C'était le cas pour l'abbaye de Lucel, fondée ainsi à 600 mètres d'altitude dans un des derniers replis de la chaîne du Jura. Fin de citation. Aujourd'hui, il n'y a plus de moines à Lucel, mais le cadre idyllique, le havre de paix subsiste et font le bonheur de tous ceux qui viennent y séjourner. Oui, près de 9 siècles après les cisterciens, notre civilisation également apprécie et a besoin de trouver un endroit pour le repos et le recueillement. Dès lors, je ne vais pas m'étendre sur l'intervention bruyante de l'armée en ces lieux. Je constate, à l'instar des populations concernées et de tous ceux qui ont goûté au charme et au calme de Lucel, qu'il y a incompatibilité. Qu'on ne nous fasse pas un procès d'intention à l'égard de l'armée. Celle-ci a toujours bénéficié d'un accueil chaleureux dans les villages environnants. Mais une place de tir à Lucel, non. Non, parce que nous ne voulons pas la mort de ce joyau de notre patrimoine. Dans un tel contexte, toute tentative d'explication et de justification de manœuvres armées est vaine. Mon propos ne se veut pas alarmiste, mais si les tirs devaient persister, le destin de Lucel est inexorablement compromis. Devant ce constat, il ne faut pas s'étonner de la levée de boucliers de tous ceux qui veulent sauvegarder un environnement serein, unanimement reconnu. Et on aurait tort de minimiser leur détermination. Leur réaction est légitime et on peut s'étonner du peu d'appui des autorités cantonales. Car si de telles manœuvres militaires s'étaient déroulées de l'autre côté de la frontière, nous pouvons imaginer que nous aurions aussitôt bénéficié de l'appui des autorités pour protéger ce site. D'autre part, et pour conclure, il est paradoxal que les milieux proches de la nature se taisent curieusement. N'oublions pas que l'État est zone protégée, alors qu'ils occasionnent 1000 tracas lors de l'organisation de la fête du 1er août, sous prétexte, non contesté par ailleurs, que la faune est dérangée. Très sérieusement, peut-on croire que les colverts s'accommodent mieux des rivières?
La discussion continue. Monsieur le député Pierre-Alain Gentil.
Mesdames et messieurs, comme l'a dit l'intervenant, nous avons donné et assez donné. La pétition rappelle opportunément à certains milieux militaires qu'ils doivent tenir non seulement compte des votes populaires, ce qui semble pas tout à fait évident, en tout cas dans les milieux d'officiers à Joulot, mais encore du sentiment populaire. Le sentiment populaire est manifeste et évident, et il serait surprenant, pour employer un euphémisme, que le gouvernement ne s'y rallie pas.
La discussion continue. Elle n'est plus utilisée. Elle est close. La parole est au président du gouvernement, monsieur le ministre François Lachat.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés. On n'a pas l'air de se contenter d'un accord verbal. Et pourtant, un seul accord verbal a été passé entre Georges-André Chevalat et moi-même au sujet de Calabrie en 1979. Y a-t-il eu, depuis ce jour-là, un seul tir à Calabrie? On me pose la question de savoir quelle sera l'attitude du pouvoir fédéral au sujet de l'intervention du gouvernement cantonal. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne suis ni la petite Delphes, ni Madame Soleil, donc il est exclu que je réponde à cette question. On nous annonce ensuite qu'il y a des tractations entre Monsieur Ackermann et les organes compétents du département militaire fédéral.
J'avais pourtant demandé qu'on m'écoute clairement. Monsieur Souter dit, et je relis, en me tenant strictement à nos accords verbaux que vous mentionnez, je n'ai pris aucune initiative auprès de Monsieur Ackermann. C'est au contraire celui-ci qui, en date du 7 octobre, m'a envoyé la lettre annexée. Je n'ai fait donc qu'accuser réception de sa lettre. Il n'y a aucune discussion. Monsieur Ackermann se plaint. Je le cherche. Ah, il est là au fond. Monsieur Ackermann se plaint parce que, dit-il, les autorités cantonales ne donnent pas leur appui. Je le répète, dans cette affaire, nous avons tenu une ligne de conduite qui est claire. Le DMF ne peut strictement rien faire sans accord préalable du gouvernement cantonal. Que voulez-vous d'autre? Monsieur Gentil me demande de se rallier. À quoi? Au fait qu'il n'y ait plus un seul tir. Malheureusement, pour le moment, je ne puis pas le faire. Je ne puis pas le faire parce que, je le répète, il est important que les troupes jurassiennes, et j'ai dit quelles étaient ces troupes jurassiennes, je le répète, la 3e brigade frontière et le 9e régiment d'infanterie, lesquels tirent depuis, en tout cas, parce que ma mémoire ne m'a pas permis d'aller plus loin, ni mes services, puisqu'ils n'existent que depuis 1979, en tout cas depuis la Deuxième Guerre mondiale, et cela tous les 2 ans, pas plus, pas moins, à raison, d'après les statistiques qu'on m'a fournies, de 4 à 5 jours. J'admets avec vous qu'il y a eu au mois de janvier des troupes fédérales. Je félicite ces gens-là pour leur magnifique psychologie, qui ont tiré 10 jours, voire 11 jours. Dans mes papiers, j'ai 10, quelqu'un a dit 11, on ne va pas se battre pour un jour, dès le moment où cela a été fait de cette façon-là. Et nous n'en savions rien. Alors je répète ce que je vous ai dit ici, je m'exprime au nom du gouvernement cantonal. Nous n'acceptons pas, et je vous ai lu les textes que nous avons envoyés, y compris au Conseil fédéral, nous n'acceptons pas d'extension de la caserne de Bure, mais nous disons il faut laisser les troupes jurassiennes s'exercer au tir. Et pour l'amour de Dieu, quand je vous dis que des accords verbaux peuvent être respectés, pensez simplement à ce que je viens de vous dire au sujet de Calabrie.
Nous passons au point 12, motion numéro 279, moyens de lutter contre la pauvreté. Je donne la parole à monsieur le député Jacques Bassan.
Monsieur le président, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les députés, la persistance de la pauvreté en Suisse, l'émergence de la nouvelle pauvreté due à la crise économique ne peuvent plus être liées. L'une et l'autre, fortement imbriquées, sont là, frappent à côté de nous, dans nos cités, dans nos campagnes. Des gens en souffrent, la subissent. Ils sont plus de 400 000, ceux que l'on nomme les Suisses sans nom. Pourquoi sans nom? Tout simplement parce que les moyens matériels insignifiants dont ils disposent les empêchent de s'intégrer dans la société. Ils ne peuvent suivre le mouvement et en sont donc exclus, mis à l'écart, humiliés. Ils souffrent en silence et dans la honte, les pauvres, et ne se manifestent pas ou si peu, tant il est vrai que par ici, leur état social est un constat d'échec. Ils ne font donc pas l'étaler leur misère, ni l'avouer, car elle marque d'indignité, plus encore qu'une maladie honteuse. Dans cette Suisse opulente où la réussite sociale prime tout, ils vivent dans un état constant de précarité et sont à la merci du moindre pépin qui les plongera plus profondément encore dans leur misère. Par exemple, la perte de l'emploi le permettant péniblement de surnager, la maladie, un accident, etc. C'est très dur pour eux, côté matériel bien sûr, côté moral tout autant, car vivre constamment de privation en marge de la société et dans l'insécurité, ça épuise, ça tue. À quoi se mesure donc la pauvreté dans ce pays ? À ce qu'il reste concrètement pour manger et vivre après avoir payé les factures mensuelles, quand c'est toutefois possible. Pour beaucoup d'oubliés de la prospérité, les restes sont souvent chiches, voire quasi inexistants, avec pour conséquence une vie d'infortune et une prédisposition logique et tragique aux maladies, au désespoir, à la fatalité. Selon une étude datant de 1986, plus de 10% des ménages suisses disposent d'un revenu égal ou inférieur à 13 200 francs l'an, soit guère plus de 1 000 francs par mois. Comment vivre avec cette misère, ou plutôt, comment éviter de ne pas en mourir ? Je vous le demande. Ce qui précède veut dire que plus de 400 000 Suisses vivent en dessous du minimum vital. Pour le canton du Jura, et si l'on interprète ces chiffres en proportion, l'on peut dire que 2 300 ménages vivent au seuil de l'indigence. Le phénomène ne tend, hélas, pas à régresser, bien au contraire. Caritas, les centres socio-protestants, l'œuvre suisse d'entraide ouvrière, le mouvement Carmonde et d'autres le soulignent. La paupérisation et par là même la marginalisation d'une frange de notre population a tendance à progresser. Qui sont-ils ces gens ignorés jusqu'à présent par la société ? Il y a des chômeurs à fin de droit qui se débrouillent tant bien que mal pour vivre. Il serait entre 80 000 et 100 000 en Suisse et ne marchent plus dans les statistiques. Certains rentiers AVS, des femmes surtout, des bénéficiaires de rentes parcellaires aussi, ne trouvant plus de travail à mi-temps. Des femmes divorcées ou autres qui soudain doivent travailler, souvent sans qualification et en élevant seuls leurs enfants. Les victimes du petit crédit qui, en cas de malheur, ne peuvent plus faire face et sont obligées d'emprunter ailleurs, puis ailleurs, et en fin de compte se retrouvent devant un mur de dette infranchissable. Il y a enfin tout un sous-prolétariat sans formation, mal payé et occupant des emplois instables à la merci de la moindre saute d'humeur économique. Voilà ce qui forme le plus fort contingent de nos pauvres du quart-monde suisse. Il est urgent de les aider afin de juguler le malheur frappant souvent les mêmes milieux, afin surtout de briser le cercle infernal, voyant les enfants des pauvres être à leur tour voués aux basses besognes. Comme je l'ai dit plus haut, notre canton n'échappe pas à ce phénomène de société terrifiant. Les rapports des œuvres caritatives et des services sociaux sont alarmants. Aussi, mesdames et messieurs les députés, je vous demande d'accepter la présente motion afin que les laissés pour compte de la prospérité vivant à l'intérieur de nos frontières cantonales bénéficient de la justice à laquelle ils ont droit. En le faisant, vous défendrez aussi la famille et la qualité de vie qui devrait être sienne. Soyons donc logiques avec ce que nous avons voté ce matin et acceptons là cette motion qui demande au gouvernement de former dans les plus brefs délais une commission chargée de plancher sur le problème, d'en étudier les causes et effets dans notre canton et de proposer des solutions susceptibles de l'éliminer. D'autres cantons le font, pourquoi pas le nôtre ? Je vous remercie de votre attention.
La parole est au représentant du gouvernement, Monsieur le ministre Gaston Brayer.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, les longues années de plein emploi, à côté des importantes mesures prises dans le cadre des œuvres sociales, n'ont pu supprimer la pauvreté. Dans notre pays aussi, il est vrai, l'un des plus riches du monde, la pauvreté existe encore. En réalité, elle fut toujours présente, mais elle s'est transformée suivant l'évolution de notre mode de vie. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, la pauvreté affecte probablement moins de personnes âgées, mais davantage d'isolés. Souvent des jeunes, sans travail et sans qualification, ainsi que des familles
monoparentales notamment. En outre, la précarité de l'emploi à laquelle monsieur le député Bassan faisait allusion, la difficulté de certains travailleurs à trouver un emploi, à se maintenir sur le marché du travail ou à bénéficier d'indemnités de chômage suffisantes compte parmi les principaux facteurs conduisant des hommes, des femmes et des familles à vivre avec moins de ressources. Plus les revenus sont bas, plus ils risquent d'être irréguliers, liés au chômage et à de très faibles qualifications. Pour mieux connaître l'importance de la misère cachée, il faut tenter de chiffrer ce phénomène. Cependant, mesdames et messieurs les députés, deux questions se posent immédiatement. Première question, comment peut-on définir la pauvreté? Deuxième question, comment peut-on la mesurer? Au sens large, on peut déclarer pauvre celui qui n'a pas suffisamment pour répondre à ses besoins, à son confort vital et au respect de soi-même, besoins considérés comme normaux par une société. Cependant, les différents textes d'études sur la pauvreté nous montrent combien il est difficile et complexe de définir ce phénomène d'une façon précise et adéquate. On peut affirmer, certes, que c'est une affaire de spécialistes. Les enquêtes sur le terrain mettent tout d'abord en évidence la difficulté d'approcher et de connaître réellement les personnes et les familles le plus gravement et le plus durablement touchées. Dans un premier temps, les chercheurs ont essayé de cerner la pauvreté en définissant les besoins primaires. Entendez par là, indispensables à la survie, d'un point de vue biologique. Malgré les calculs sophistiqués qui entrent dans la détermination de ce minimum de subsistance, ils ont bien dû reconnaître que ce qui est considéré comme pauvreté dans une société, à un moment donné, ne peut plus l'être à un autre. L'aide sociale s'adresse-t-elle prioritairement aux plus démunis? Les informations que nous pouvons recueillir fournissent seulement le relevé des situations connues par des personnes ayant bénéficié d'une aide durant l'année, d'une façon occasionnelle ou parfois sur une durée plus ou moins longue. Mais, mesdames et messieurs, elles n'offrent aucune indication sur le nombre de personnes démunies qui n'ont bénéficié d'aucune aide, alors qu'elles auraient pu ou qu'elles pourraient également y prétendre. Par ailleurs, elle n'indique pas si les bénéficiaires de l'aide sociale ont pu, grâce à celle-ci, voir leurs conditions s'améliorer. Il s'y est de rappeler que la loi sur les œuvres sociales précise que l'aide sociale apportée aux indigents qui se trouvent dans le canton et qui sont domiciliés incombe à la commune municipale ou mixte dans laquelle les intéressés ont leur domicile. Selon la loi, est considéré comme indigent celui qui, sans le secours de l'aide sociale, ne peut subvenir à son entretien. Le système jurassien d'assistance sociale s'avère être l'un des plus avancés de Suisse, puisqu'il prévoit que l'aide matérielle indispensable ne peut être refusée à un indigent, même si, par suite d'une faute grave, il est lui-même responsable de son état. Dans ce cas, la personne secourue doit s'engager à rembourser l'aide reçue dès qu'elle en sera en mesure de le faire. Selon le service de l'aide sociale qui vient d'établir la répartition des charges des œuvres sociales pour 1985, les dépenses de l'État se sont élevées à 8 576 000 francs et celle des communes à 3 893 000 francs, soit au total 12 469 000 francs. Durant l'année considérée, l'aide sociale versée par les communes à des personnes seules ou à des familles s'élève à 1 637 000 francs. En outre, à ce montant s'ajoutent les allocations spéciales, soit 177 000 francs. Comment, mesdames et messieurs, les pouvoirs publics réagissent-ils face à la nouvelle pauvreté? Au plan fédéral, le 17 juin 1987, un conseiller national a déposé un postulat dont la teneur est la suivante. Se référant aux interventions parlementaires présentées et aux études faites ces dernières années sur le problème de la pauvreté, le Conseil fédéral est invité à réexaminer la situation actuelle en proposant notamment à l'Assemblée fédérale, primo, d'élaborer un rapport sur la situation sociale dans son ensemble, sur la pauvreté et sur les causes de celle-ci. Secondo, d'établir un plan fédéral d'aide avec la collaboration des cantons et des communes intéressées en faveur de la partie de notre population qui vit dans des conditions d'indigence reconnues, tant du point de vue économique que du point de vue financier, et d'étudier simultanément les mesures propres à prévenir et à combattre ce triste et dramatique phénomène social. Fin de citation. Une étude sur la pauvreté en Suisse préoccupe au plus haut point la Conférence suisse des institutions d'assistance publique. Je vous signale que la Conférence suisse des institutions d'assistance publique est une association spécialisée à laquelle sont affiliés les organes d'assistance publique de la Confédération, de tous les cantons et de près de 1000 communes, ainsi que quelques œuvres d'entraide privée. Je vous signale également que M. Jean-Pierre Joliat, chef du service, fait partie du comité en tant que représentant de l'aide sociale de la République et canton du Jura. Après avoir porté le thème de la pauvreté et évoqué ses divers aspects, au cours d'une discussion lors de son assemblée annuelle de 1986, l'association voue actuellement une attention suivie à ce sujet. Au cours des prochains mois, l'association concernée se consacrera de plus en plus intensivement à la maîtrise des questions se rapportant aux thèmes soulevés par le motionnaire. En outre, elle prévoit la constitution d'un comité réunissant divers spécialistes dont le rôle sera d'entreprendre des recherches appropriées au plan national et au plan régional. Quelle a été la réaction du Conseil fédéral? Le Conseil fédéral, en réponse à de nombreuses interventions parlementaires, a accepté de présenter au Parlement un rapport sur l'importance et les causes de la pauvreté en Suisse, ainsi que sur les mesures concrètes d'aide et de prévention susceptibles d'améliorer la situation matérielle et sociale des personnes et des familles concernées. Ce rapport, mesdames et messieurs, sera publié dans le cadre de la 5e série du Programme national de recherche sur le thème « Changement des modes de vie et avenir de la sécurité sociale ». Les enquêtes et travaux préparatoires sur le rapport séparé sur la pauvreté en Suisse seront faits en étroite collaboration avec toutes les institutions concernées. En conclusion, sachant que la nouvelle pauvreté se caractérise par une accumulation de facteurs multiples, revenus, logement, santé, formation professionnelle, rapports familiaux, tous ces facteurs agissant concentriquement, il s'ensuit qu'il est indispensable de faire des efforts accrus pour mieux coordonner les diverses interventions en un programme global, établi par la Confédération en étroite collaboration avec les cantons. Scientifiquement, la pauvreté constitue un phénomène qui devrait être étudié sous un aspect économique, sociologique, psychologique ou justement interdisciplinaire. Les mesures pour la combattre doivent également être prises à différents niveaux et coordonnées. Elles sont à envisager au moins parallèlement dans les domaines de la politique économique et sociale, ainsi que dans la pédagogie et de l'aide sociale. Quoi qu'il en soit, les politiciens qui proclament la pauvreté uniquement en rapport avec l'incapacité individuelle ou avec des structures économiques insuffisantes se trompent. Le problème ne peut pas non plus être résolu en faisant appel à la responsabilité de chaque individu ou par un nouveau mode de répartition des moyens financiers. À l'évidence, la création d'une commission, ainsi que le demande le motionnaire, ne s'impose pas pour l'instant. Le gouvernement juge qu'il y a lieu d'attendre le résultat de l'enquête fédérale qui sera prochainement entreprise. Le moment venu, votre Parlement sera renseigné sur les études effectuées, sur les conclusions du rapport publié par le Conseil fédéral. En conséquence, mesdames et messieurs les députés, au sens des raisons que je viens d'évoquer, le gouvernement demande à monsieur le député Basson de transformer sa motion en postulat, et c'est sous cette forme que je vous invite à accepter l'intervention parlementaire qui vous est soumise.
Monsieur le député Jacques Basson, acceptez-vous la transformation de la motion en postulat? Non. Je constate que la motion est donc combattue. La discussion générale est ouverte. Discussion générale est close. L'auteur de la motion, monsieur le député Jacques Basson.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les députés, la pauvreté existe, monsieur le ministre. On a parlé, moi aussi, et je ne comprends absolument pas ce qui retient le gouvernement, dans les analyses concordes avec les miennes, de former cette commission. Et c'est pour cette raison que j'insiste et que je maintiens la motion.
Monsieur le ministre.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est vrai, Monsieur Basson, que nous partageons le même souci. Et nous n'avons surtout pas nié que la pauvreté existe. Nous vous avons donné notre analyse et nous vous avons fait part de nos préoccupations. Mais nous estimons qu'il s'agit de coordonner les efforts, qu'il s'agit de ne pas disperser l'action. Actuellement, au niveau de la Confédération, se place une analyse qui va déboucher sur un rapport qui nous apprendra quelque chose. Nous pourrons nous en inspirer et nous pourrons alors beaucoup mieux cerner pour notre région l'ensemble des problèmes et ceux qui seraient encore supplémentaires à cela. Alors viendra à ce moment-là l'occasion et l'heure de mettre sur pied une commission chargée précisément de réaliser ce que vous pensez réaliser. Mais pour l'instant, mesdames et messieurs, et je m'adresse à la responsabilité de chacun de vous, je crois que nous sommes devant une situation où il est important que nous procédions avec systématique et logique. Attendons le rapport. Nous serons beaucoup mieux armés dans nos commissions pour cerner et dominer les problèmes qui se posent et que nous ne contestons pas, que nous ne nions pas. C'est pour cette raison, mesdames et messieurs les députés, que je vous invite à rejeter la motion.
Monsieur le député Jacques Basson, désirez-vous encore vous exprimer ? Si, je m'excuse, l'application du règlement permet encore à monsieur le député de répliquer. Plus rien à ajouter, monsieur le député. Très bien, nous allons voter. Les députés qui acceptent la motion numéro 279 sont priés de le manifester par levée de main. Scrutateur. Les députés qui rejettent la motion sont priés de le manifester par levée de main. La motion numéro 279 est rejetée par 28 voix contre 21. Nous passons au point 13, interpellation numéro 181. Commémoration des tragiques événements de 1740, je donne la parole à Monsieur le député Jean-Claude Prince.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, les troubles qui ébranlèrent l'évêché de Bâle durant une dizaine d'années et qui prirent fin en 1740 par l'exécution sur l'échafaud de Péquignat, Lyon et Ria, constituent l'une des pages les plus controversées de notre histoire. Comme l'a écrit Auguste Quiqueré dans le livre qu'il consacra à ces événements, je cite, « Les contemporains attachés à la cour princière et ne reconnaissant que le droit divin n'ont vu dans les troubles du pays, qu'une révolte des sujets contre leur souverain. Nul d'entre eux et de ceux qui ont suivi leurs traces n'ont voulu admettre que ce qu'ils appelaient une rébellion n'était autre chose qu'une résistance au despotisme. » Fin de citation. À part la chanson des Edjola et quelques plaques de rue, que reste-t-il de cette histoire dans la mémoire populaire du Jura? Très peu de choses. Notre État se doit de prendre des dispositions pour honorer la mémoire de ces hommes qui ont pu se tromper quant au fond et à la forme de leur lutte, mais qui, tels les Davel et les Chenaux, donnèrent leur vie pour leurs idées. Le gouvernement est-il disposé à faire quelque chose dans ce sens, notamment au niveau des écoles, lors de l'année du jubilé que sera 1990? Prendra-t-il d'autres initiatives et si oui, lesquelles?
Monsieur le ministre. Monsieur le ministre répondra lors de la prochaine séance. Je vous accorde une pause de 20 minutes. Nous reprenons les débats à 16h20. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le ministre, nous reprenons les débats au point 14. Loi concernant l'amélioration du marché du logement, première lecture, je donne la parole au président de la commission d'économie publique, monsieur le député Jacques Brugnard.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés. À plusieurs reprises, la Commission économie publique a débattu des différents articles relatifs à la loi concernant l'amélioration du marché du logement, dont le projet daté du 20 novembre 1987 et qui vous a été remis par le secrétariat correspond, à l'exception de l'article 8, à la première version du gouvernement qui était annexée au message du 16 septembre 1986. Ce nouveau texte légal abrogera la loi du 9 novembre 1978 concernant l'amélioration de l'offre de logement. En tant que rapporteur de la commission économie publique, permettez-moi, chers collègues, de rappeler brièvement les points essentiels du rapport de l'exécutif. Comme le disait ce matin Pierre Boya, c'est en 1982 que l'AVLOCA déposait une initiative populaire cantonale sur le logement et la protection des locataires. Le texte de celle-ci indiquait en particulier que la loi devra traiter 1. De la politique foncière, 2, de l'encouragement à la construction de logements. 3, de l'encouragement à la rénovation de logements, notamment en zone rurale. 4, de la protection des locataires. Et 5, de la création d'un office cantonal de l'habitat. Notre Parlement, sur proposition du gouvernement, a accepté cette initiative en date du 27 octobre 1983. Aujourd'hui donc, en adoptant en première lecture la loi cadre qui nous est soumise, nous répondrions, en toute ou en partie, selon les points de vue, à la réalisation de l'initiative. À la lecture du texte du 20 novembre 1987, vous remarquerez que 3 éléments sont cités expressément, à savoir A, la politique foncière, article 3, littéra A, C et G, B, l'encouragement à la construction de logements à loyer modéré, littéra D de l'article 3, et C, l'encouragement à la rénovation de logements, lettre E du même article 3. Pour les autres points de l'initiative, c'est-à-dire l'Office cantonal de l'habitat et la protection des locataires, le gouvernement indique à la page 3 du message, je cite, qu'une section de l'habitat sera créée lors de la révision du DOGA, il s'agit du décret d'organisation du gouvernement et de l'administration cantonale. D'autre part, pour la protection des locataires, l'exécutif jurassien renvoie à une loi fédérale qui devrait être mise en place et, je cite également, dans la mesure où cette dernière laisse quelques compétences au canton, il conviendra d'en tirer le meilleur usage pour la région. Fin de citation. Comme nous examinons une loi cadre, il est bien clair que le texte que nous adopterons nécessitera, pour son application, que le Parlement adopte les décrets d'application nécessaires, par exemple pour l'article 4, et les crédits cadres périodiques mentionnés à l'article 6. Soulignons, mesdames et messieurs, que le gouvernement énumérait dans son message les différents appuis octroyés jusqu'à ce jour par, d'une part, la loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne, d'autre part, la loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements. Il s'agit de cautionnement, d'abaissement dit de base, donc de prise en charge d'intérêt et de subvention. Il y a également une autre aide, c'est l'aide fédérale pour l'équipement de terrains à bâtir, donc une aide apportée pour les viabilisations. Au niveau cantonal, la loi s'appuie sur les 5 principes qui définissent la politique cantonale en matière de logement. Le premier, le principe de l'optimalité, qui tend à utiliser au mieux les infrastructures existantes et de rénover les bâtiments qui en ont besoin. Le deuxième principe, l'attractivité, qui permet d'offrir un habitat, une qualité de l'environnement, favorisant le choix d'un lieu d'implantation dans l'une de nos communes jurassiennes. Troisième principe, la stabilité, qui permet de freiner la baisse de population constatée dans de nombreuses communes du Jura. Il y en a environ une quarantaine sur nos 86 collectivités locales. 4, le principe de la solidarité afin d'éviter les contraintes financières parfois excessives en matière de logement. Et 5, le principe de subsidiarité qui conjugue l'action de l'État, des communes et de l'économie privée, les assurances, etc., dans le domaine du logement. Rappelons aussi qu'avant de proposer au Parlement le projet débattu aujourd'hui, le gouvernement a soumis l'avant-projet à une large consultation. Et en lisant les commentaires des 13 articles, les pages 12 à 21 du message, l'exécutif nous indique qu'il a tenu compte le plus largement possible des propositions et suggestions qui furent émises. Avant de conclure, nous pouvons indiquer que la Commission aurait souhaité connaître, d'une part, les projets de décret et surtout les implications financières, respectivement les moyens, qui seront mis à disposition en matière de logement. C'est avec regret que les commissaires ont dû prendre acte, je cite, qu'au stade actuel des choses, les décrets ne peuvent être soumis à la commission de l'économie publique. D'autre part, il a été précisé par le représentant du gouvernement que les crédits cadres seraient inscrits dans les plans financiers qui, eux, sont examinés par le Parlement. C'est à ce moment-là que l'importance financière de l'action de l'État en matière de logement devra être débattue. Finalement, la Commission vous propose la modification d'un seul article, le 8e, précisant que le gouvernement reçoit compétence pour arrêter les dispositions d'application. L'ancienne version qui disait « le Parlement peut habiliter le gouvernement à arrêter les dispositions d'exécution » étant aux yeux de la Commission beaucoup trop vague, peu pragmatique et aléatoire. La majorité de la Commission vous recommandant d'accepter l'entrée en matière et les 13 articles de la loi concernant l'amélioration du logement, permettez-moi de remercier encore le rapporteur du gouvernement, Jean-Pierre Beuret, et ses collaborateurs, Messieurs Bloch et Erard, responsables du service d'économie et de l'habitat, qui nous ont remis toute la documentation utile et qui ont complété l'information des membres de notre commission. Je vous remercie pour votre attention.
La parole est au représentant des groupes. Monsieur le député Pierre-Alain Gentil.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, trois constatations. La première, c'est que nous répondons à cette initiative hors des délais constitutionnels ou légaux, comme c'était le cas pour l'initiative du PDC que nous avons traitée ce matin. Ce retard, il faut le dire, est dû en partie au fonctionnement de nos propres commissions parlementaires, ce qui me conduit à penser qu'il faudra prochainement que le Parlement s'interroge sérieusement sur son propre fonctionnement. Il est difficilement admissible que les délais constitutionnels soient dépassés de 2 ans. Deuxième constatation, c'est celle d'une déception. Nous sommes en face d'une loi cadre. Le principe n'est pas contestable en l'espèce, car il s'agit d'un domaine qui évolue rapidement et dans lequel, par ailleurs, la répartition des tâches entre cantons et confédérations n'est pas clairement déterminée aujourd'hui et pourrait évoluer. On y retrouve, il faut le souligner, la mention des principaux soucis des initiants, à l'exception notable toutefois de la cellule administrative chargée de couvrir de manière active ou de s'occuper de manière active de cette matière. On ne peut donc pas raisonnablement s'opposer à cette loi 4. Mais, et c'est la troisième constatation, pour l'essentiel, c'est-à-dire pour l'application, la loi renvoie à des décrets dont on ne connaît rien ou presque. Chacun admettra pourtant que la situation du logement est aujourd'hui préoccupante, que l'on considère le montant des loyers, en ville de Delémont par exemple, ou l'apparition dans notre canton du système des congés-ventes qui fleurit dans la région lémanique. Il aurait donc été heureux que nous connaissions, au moment de cette discussion, les arrêtés d'application ou, à tout le moins, leurs grands axes, ainsi que l'enveloppe budgétaire prévue. Tel n'est pas le cas et c'est regrettable. C'est pourquoi, en acceptant l'entrée en matière, le groupe socialiste demande au ministre dans quel délai les décrets d'application seront soumis au Parlement, pour ceux qui sont de sa compétence, et si ces décrets seront élaborés, comme cela a été évoqué en commission parlementaire, par un groupe de travail réunissant non seulement des fonctionnaires, mais également les principaux intéressés au domaine, soit des représentants des locataires et des propriétaires.
La parole est aux autres membres de la commission. Monsieur le député Victor Giordano.
Mesdames et messieurs, grosso modo, le groupe chrétien social se rallie à ce qui a été dit par le président de la commission. Nous aimerions tout de même dire, au sujet des remarques de M. Gentil concernant les décrets, que
que nous pouvons suivre son raisonnement jusqu'à un certain point. En effet, il ne faut pas perdre de vue l'article 6 de la loi qui précise que tous les engagements financiers relatifs aux mesures prises font l'objet d'un crédit cadre périodique soumis au Parlement. Le Parlement n'est donc pas du tout éloigné de la procédure. Il peut intervenir absolument dans l'application des dispositions de cette loi et il peut intervenir en se prononçant sur l'ampleur des crédits qui pourraient être affectés aux objectifs de la loi. C'est d'ailleurs en fonction du libellé de cet article 6 que le groupe chrétien social a accepté que nous nous prononcions sur cette loi sans avoir connaissance du contenu des décrets.
La discussion générale est ouverte. Elle n'est pas utilisée. Elle est close. Le président de la commission. La parole est au représentant du gouvernement, monsieur le ministre Jean-Pierre Beuret.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, l'aide au logement est un domaine couvert relativement bien par la législation fédérale. Qu'il s'agisse de l'équipement de lotissements, de l'amélioration du logement dans les régions de montagne ou de l'encouragement à la construction et à l'accès à la propriété de logements. On peut donc conclure que seuls les besoins locaux, notamment dans les centres, ainsi que les besoins particuliers, tels que, pour ce qui nous concerne, la réhabilitation de l'habitat rural, l'aide aux familles à faible revenu, ainsi que le manque de terrain disponible dans certains cas, peuvent subsister et être réglés par une législation cantonale. Notre politique cantonale du logement est construite sur trois éléments. D'abord, il appartient aux communes de prévoir les surfaces nécessaires à l'habitat et en conséquence, à prendre les mesures nécessaires pour la réservation, l'acquisition, l'équipement et la mise à disposition de terrains à bâtir. Ensuite, la construction et la commercialisation de logements est du ressort de l'économie privée. Réserve faite des logements à caractère social dont la mise à disposition doit être assurée par des sociétés mixtes ou des communes. Troisièmement, le canton a un rôle d'incitation et de soutien, notamment en aidant les communes pour la mise à disposition de terrains à bâtir, en soutenant l'économie privée dans la construction de logements et en venant en aide à certaines catégories d'utilisateurs de logements. Suite à l'initiative et aux différentes interventions parlementaires réclamant l'élaboration d'une nouvelle législation cantonale sur le logement, il y avait deux manières d'aborder la question. Ou bien élaborer une loi détaillée, mais plutôt rigide, assortie d'ordonnances d'application arrêtées par le gouvernement, ou bien élaborer une loi simple, mais générale, assortie de décrets d'application limités dans le temps, portant sur des domaines bien délimités et arrêtés de cas en cas par le Parlement. Le gouvernement a choisi cette deuxième solution, car elle préserve mieux les compétences du Parlement dans un domaine qui touche profondément la vie quotidienne de la population tout entière, et surtout, elle est la solution la mieux à même de s'adapter à l'évolution des plans financiers qui, eux aussi, sont arrêtés par le Parlement. S'agissant des délais pour la présentation des décrets d'application, il faudra bien compter à partir de l'approbation de la présente loi le délai d'une année pour les élaborer. L'élaboration de ces décrets se fera bien sûr en concertation avec les représentants des milieux concernés. Il n'y a pas lieu cependant de mettre en place des procédures disproportionnées. Il faut que du côté du gouvernement et de ses services, les responsabilités soient assumées en concertation, je le rappelle, avec les milieux concernés, sans qu'il soit nécessaire
de mettre en place une commissionnite disproportionnée à ce sujet.
L'entrée en matière n'étant pas combattue, nous passons à la discussion de détail. Article 1er, discussion. Accepté. Article 2, discussion. Accepté. Article 3, discussion. Monsieur le député Pierre Gagnard.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'interviens à l'article 3, paragraphe 1, à la lettre F et G. La lettre F dit que les objectifs de la présente loi pourront être réalisés en favorisant l'accès à la propriété de logements. J'aimerais faire remarquer ici que cette clause risque d'aller tout à fait à fin contraire. On dénote en effet sur le marché immobilier une tendance de plus en plus marquée à des propriétaires à résilier les baux à loyer pour vendre les appartements, ce qui n'est pas toujours possible de la part des propriétaires, des locataires, surtout quand il s'agit de personnes qui ont déjà un certain âge et qui n'ont pas, d'une façon générale, qui n'ont pas les moyens d'investir des sommes aussi considérables que celle que représente l'acquisition d'un logement. Il n'est donc pas souhaitable, à mon avis, de prévoir dans une loi qui, en principe, doit améliorer le marché du logement, une clause qui permet justement, non pas d'améliorer, mais de rendre encore plus difficile la situation sur le marché du logement. Cette lettre F, avec la clause que j'ai mentionnée, me paraît d'ailleurs aussi en contradiction avec la lettre G qui dit à propos des objectifs de la loi, qu'il s'agit de restreindre les possibilités de démolir, très bien, de transformer les maisons d'habitation ou de les soustraire au marché du logement. Or, vendre des appartements, résilier des baux pour pouvoir vendre des appartements à leurs anciens locataires ou alors obliger les locataires à partir, eh bien, ça n'est pas améliorer la situation du logement. Ce que nous pourrions faire, si nous voulons absolument mentionner dans cette loi l'accès à la propriété, c'est arrêter la phrase sous lettre F et indiquer simplement les objectifs de la présente loi pourront être réalisés en favorisant l'accès à la propriété. Ce serait un des moyens, et s'arrêter là. Pas à la propriété de logement, l'accès à la propriété d'une façon générale. Si quelqu'un veut construire une maison familiale ou si quelqu'un veut acquérir dans une maison neuve un appartement, il est libre de le faire. Mais comme on ne peut pas, sous cette lettre F, préciser qu'il s'agit de favoriser l'accès à la propriété de logement dans les maisons, dans les constructions nouvelles, à l'exclusion des bâtiments existants, etc., etc., je crois qu'il est raisonnable d'arrêter la phrase simplement après propriété, favorisant l'accès à la propriété, puis alors de maintenir à ce moment-là la lettre G, puisque la lettre G prévoit précisément qu'il s'agit d'éviter que des logements soient soustraits au marché du logement. Alors, vous venez d'entendre ma proposition, je vous prie de l'accepter.
La discussion continue concernant l'article 3. Monsieur le député Georges Reiss.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, j'interviens également au sujet de la lettre F dans l'alinéa 1er. Il est difficile de savoir si finalement le point de vue exprimé par Monsieur Guignard rejoint dans cette matière le point de vue du PLR. Aussi vais-je peut-être préciser ce point de vue du PLR qui va dans le sens que, effectivement, nous estimons que l'accès à la propriété va aussi dans le sens d'une amélioration du marché du logement. Et s'agissant précisément de la teneur de cet alinéa 1, nous constatons ceci. Sous lettre C, on entend faciliter notamment l'acquisition de terrains à bâtir. Et il est, mesdames et messieurs, dès lors évident qu'à la notion de propriété du terrain à bâtir, on puisse logiquement associer la notion de propriété de la maison qu'on érige sur ce terrain. Et il nous semble logique, dans cette lancée, que l'alinéa, c'est-à-dire sous lettre F, on fasse explicitement référence à la propriété de maison. Et je pense que c'est ici que nous ne sommes pas tout à fait du même avis que M. Guignard. Et nous proposons, plutôt que de nous arrêter après propriété, de préciser, en remplaçant le corps de phrase de logement par un autre corps de phrase qui serait d'appartement et de maison. Et la lettre F serait ainsi libellée en favorisant l'accès à la propriété d'appartement et de maison. C'est dans ce sens-là, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, que nous proposons à la Commission d'étudier la chose en vue de la deuxième lecture. Nous ne ferons pas de proposition précise maintenant et nous estimons qu'il appartient à la Commission d'essayer de trouver une formulation qui finalement soit logique et qui, dans le sens que la loi veut favoriser l'acquisition, l'accès à la propriété de terrain, la dite loi doit également avoir pour corollaire de favoriser l'accès à la propriété de maisons et d'appartements.
La discussion continue. Monsieur le député Pierre-Alain Gentil.
Mesdames et messieurs, mon intervention porte sur l'alinéa 2, lettre F, qui est formulé comme suit: la participation à la constitution de fondations ou de sociétés. Et à l'examen de ces textes en groupe parlementaire, nous nous sommes demandé s'il était opportun de mentionner clairement la constitution, dans la mesure où il serait possible d'envisager que l'État participe également à des institutions déjà existantes, raison pour laquelle nous vous proposerions de formuler la lettre F de la manière suivante, dire simplement la participation à des fondations ou des sociétés, etc. Donc supprimer l'allusion à la constitution, ce qui permet ou ce qui pourrait permettre à la collectivité publique de participer à des instances ou à des organismes déjà existants.
Des questions pratiques, Monsieur le député Guignard, vous maintenez votre proposition? Oui, vous avez la parole, Monsieur le député.
J'ai craint un instant que nous étions d'accord. Mais heureusement, je me suis aperçu que nous ne sommes pas du tout d'accord, pas du tout sur la même longueur d'onde, parce que ce que vous proposez, M. Reif, en favorisant l'accès à la propriété de maisons et d'appartements, vous savez, c'est là exactement la même chose que le texte actuel qui dit en favorisant l'accès à la propriété de logements, c'est la même chose. Hein. Ce que je veux éviter, moi, c'est qu'on encourage cette tendance à résilier les baux pour vendre les logements, les appartements. Alors, que la Commission trouve la formule, je n'ai pas encore trouvé dans le cadre de cette loi, mais celle qui me paraît la meilleure, c'est d'arrêter la phrase en favorisant l'accès à la propriété. On ne peut pas ne pas favoriser l'accès à la propriété. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais alors, on s'arrête là. Et puis, on considère que la lettre G, par exemple, est un frein à cette tendance du fait qu'elle prévoit cette lettre qu'il faut éviter de soustraire les appartements, il faut de soustraire les appartements au marché du logement. Alors, la combinaison des deux lettres peut fournir une certaine garantie. Je maintiens par conséquent ma proposition.
La discussion continue concernant l'article 3. Monsieur le député Georges Reyes.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, je pensais effectivement faire acte de souplesse en demandant à la Commission d'étudier la question entre les deux lectures. Monsieur Guignard, vous faites bien de préciser que nous ne disons pas la même chose. À la notion de collectivisme, s'oppose la notion d'accès à la propriété au sens où nous l'entendons, nous. Dès le moment où vous maintenez votre proposition et qu'elle devient une proposition ferme sous lettre F, nous devons bien transformer notre proposition à l'égard de la Commission en proposition ferme à l'intention du présent Parlement. Par conséquent, le groupe PLR propose de remplacer de logements par d'appartements et de maisons. Et c'est une proposition ferme.
La discussion continue. Monsieur le député André Richon.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, ce sera peut-être l'intervention la plus brève de l'après-midi. J'ai été consulter le dictionnaire de la paroisse réformée évangélique de Delémont. C'est l'accession à la propriété. C'est même l'exemple type donné par le Larousse. Terminé.
La discussion continue. Elle n'est plus utilisée. Elle est close. Le président de la commission.
Bien, on va essayer de tirer ça au clair. Donc, à la commission, nous n'avons pas longuement discuté de cet article. Je rappelle simplement qu'en Suisse, le nombre de propriétaires de leur appartement, de leur maison ou de leur logement est l'un des plus faibles des pays occidentaux. Et il est absolument nécessaire, et cela n'a pas été combattu en commission, que l'on note cette lettre F où on encourage l'accession à la propriété. La commission, si l'on regarde bien M. Guénia, n'a pas discuté de ce problème. Pourquoi ? C'est la propriété de logement, bien sûr, puisque le titre de la loi précise bien qu'on encourage l'accession, donc le marché du logement. Il nous paraissait, en tout cas à la commission, tout à fait logique d'adopter le texte tel qu'il est proposé. Concernant la proposition du PLR, c'est une différence en ce sens que l'ancienne loi, et je me permets de vous la lire, disait ce qu'indique M. Reiss. Article 3, les objectifs de la présente loi, c'était l'autre, pourront être réalisés en encourageant l'accession à la propriété d'appartements et de maisons. Alors il est clair que si on avait dû l'étudier entre les deux lectures, on l'aurait fait très volontiers, mais là je demande au Parlement de bien vouloir se prononcer. Je rappelle simplement qu'en commission, il n'y a pas eu de proposition, et au nom de celle-ci, je vous recommande d'adopter le texte tel qu'il vous a été proposé. Pendant que j'ai la parole concernant la suggestion de M. Gentil au nom du PS à l'article F de l'alinéa 2, sa proposition me paraît opportune en ce sens que la formulation, la participation à des fondations implique également la possibilité pour l'État de prendre des participations à la Constitution, ce qui était le but de la formulation adoptée. Donc, en étant un peu plus général, je pense que l'on nuit absolument pas au but poursuivi par ce projet de loi.
Monsieur le ministre.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je crois que les deux formulations, qu'il s'agisse de la proposition que vous avez entre les mains ou de la proposition formulée ici par Monsieur le député Reiss, sont quasi identiques, étant donné qu'il s'agit bien de favoriser l'accès ou l'accession à la propriété d'un habitat, qu'il s'agisse d'un logement dans un immeuble à plusieurs logements, ou qu'il s'agisse d'une maison dans laquelle on ne trouve qu'un logement. Mais il me paraît très dangereux de biffer le terme logement ou appartement ou maison, car si l'on dit simplement favoriser l'accession à la propriété, alors on pourrait être obligé d'inclure dans les décrets d'application déjà le terrain à bâtir, sans construction sur ce terrain. C'est déjà une propriété en vue d'y créer, le cas échéant, une habitation. Alors, il vaut, je crois, mieux qu'on précise tout de même le but de la disposition qu'il s'agit bien d'aider à l'accession à la propriété d'un logement, quelle que soit en fin de compte la forme définitive qu'il prendra. Quant à l'article 2, lettre F, je crois que la proposition faite par M. le député Gentil est tout à fait acceptable et qu'elle généralise simplement la procédure s'agissant de la participation à des fondations ou à des sociétés.
Nous sommes donc en présence de trois propositions. Je considère que la proposition du groupe PLR et de M. Guénia sont des propositions d'amendement. Je parle ici de l'article 3, alinéa 1, lettre F, et je vais donc opposer ces deux propositions avant d'opposer donc celle qui récoltera le plus de voix à la proposition de la Commission que je considère comme proposition principale. Nous allons donc voter. Les députés qui acceptent la proposition du groupe PLR sont priés de le manifester par levée de main. Les députés qui acceptent la proposition de M. le député Pierre Guénia sont priés de le manifester par levée de main. La proposition du groupe PLR récolte 13 voix et la proposition de M. le député Pierre Guénia, 13 voix. Nous allons donc opposer la proposition du groupe PLR à celle de la Commission. Les députés qui acceptent la proposition de la Commission sont priés de le manifester par levée de main. Je m'excuse, j'ai dit 13-13, c'est 16-13, veuillez m'excuser. Les députés qui acceptent la proposition de la Commission sont priés de le manifester par levée de main. Scrutateur, veuillez compter.
Non, ils n'ont pas compté.
Non, les scrutateurs n'ont pas eu le temps de compter. Je vous demanderai de relever vos mains, s'il vous plaît. Pas trop haut. Les députés qui acceptent la proposition du groupe PLR sont priés de le manifester par levée de main. C'est donc la proposition de la Commission qui est acceptée par 37 voix contre 15. Nous continuons à l'article 3. Alinéa 2, lettre F. Même au vu des explications du président de la Commission et de M. le ministre, je suis en possession de deux propositions. Nous allons donc voter. Les députés, M. le Président, vous exprimez donc en tant que président de la Commission. Peut-être que d'autres membres de la Commission veulent maintenir ce texte.
Donc c'est ce que j'allais dire. On est d'accord au niveau de la Commission d'accepter le texte proposé. Donc il n'y a plus que la proposition PLR.
Très bien. Donc c'est la proposition du groupe socialiste qui est retenue. Nous passons à l'article 4. Discussion. Accepté. Article 5. Discussion. Accepté. Article 6. Discussion. Accepté. Article 7. Discussion. Monsieur le Président.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, au sujet de cet article, une précision s'impose concernant les délais de prescription relatifs au maintien de la destination et au remboursement éventuel des aides de l'État et des communes, les subventions, les prises en charge d'intérêt, prêts, cautionnement, etc. Le service juridique nous a communiqué quelle serait la pratique à ce sujet, je cite, concernant l'alinéa 1. Il est donné au canton la possibilité d'assortir l'octroi de prestations, de charges et conditions limitées dans le temps. Les dites modalités seront définies dans une convention et pourront être annotées au registre foncier. En relation avec la linéa 4, les créances en restitution de prestations allouées se prescrivent par une année dès que les autorités compétentes ont eu connaissance de leur droit de répétition, les communes, le canton, voire la confédération, et dans tous les cas, par 10 ans dès la naissance du droit précité. Certains cas pouvant bien entendu survenir dans quelques dossiers, il nous paraît utile et nécessaire d'apporter ces précisions dans le cadre de nos débats et pour la publication dans le journal des débats.
Article 7, la discussion continue. Elle n'est pas utilisée les clauses, monsieur le ministre. Je constate que cet article est accepté. Article 8, discussion. Accepté. Article 9, discussion. Accepté. Article 10, discussion. Accepté. Article 11, discussion. Accepté. Article 12, discussion. Accepté. Article 13, discussion. Accepté. Titre et préambule, discussion. Accepté. Nous allons donc voter. Les députés qui acceptent la loi concernant l'amélioration du marché du logement sont priés de le manifester par levée de main. Scrutateur. Avis contraire, il n'y en a pas. La loi est acceptée par 48 voix contre 0. Nous passons au point 15, motion numéro 277, concertation entre canton roman et fonds roman d'impulsion. Je donne la parole à monsieur le député Pierre-Alain Gentil.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs, le texte de la motion parle de lui-même et comme le gouvernement l'accepte, je vais me dispenser d'un long développement pour vous indiquer que le but de cette motion vise simplement à réaffirmer la solidarité économique entre les cantons romans sous deux aspects. Ce sont les deux derniers alinéas du texte. Tout d'abord, essayer de mettre en place un organisme de concertation permanent pour coordonner les politiques fiscales et financières ainsi que les actions en matière d'emploi et d'aménagement du territoire. Et deuxième élément, essayer de mettre sur pied un fonds roman d'impulsion destiné au développement économique. Je vous signale qu'une motion analogue à celle-ci a été acceptée sans opposition par le Grand Conseil Genevois.
La parole est au représentant du gouvernement, monsieur le ministre Jean-Pierre Beuret.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, le gouvernement accepte cette motion qui charge l'exécutif de prendre contact avec les autres cantons de Suisse romande afin d'étudier la mise en place d'un organisme de concertation permanente coordonnant les politiques fiscales et financières ainsi que les actions en matière d'emploi et d'aménagement du territoire. Cette concertation existe. Un organe a été mis sur pied, formé des chefs des départements de l'économie publique des cantons romands, du canton de Berne et du Tessin. Cet organisme avait vu le jour sans le canton de Berne pour examiner les initiatives communes à prendre à l'endroit de la décentralisation de l'administration fédérale. Il termine à l'heure actuelle l'examen du dossier relatif au parc scientifique et technologique d'Yverdon et a commencé l'étude d'un organisme roman de promotion industrielle. Cet organe de concertation possède un prolongement qui est l'association de coopération régionale, laquelle est également en formation. C'est elle qui a mandaté un bureau de spécialistes pour concevoir une structure décentralisée du parc technologique d'Yverdon, et ceci sur le territoire de la République et canton du Jura. L'expérience montre que ce genre d'organe de concertation est efficace dans la mesure où les objectifs sont bien définis, dans la mesure où les moyens mis en œuvre sont également efficaces, mais aussi dans la mesure où les différents partenaires coordonnent bien les règles du jeu qui doivent prévaloir. En ce qui concerne la proposition faite
par Monsieur le député Gentil, le fonds d'impulsion prévu au niveau roman sera alimenté dans une très grande proportion par les deux cantons les plus riches, qui sont les cantons de Genève et de Vaud. Nous avons convenu au sein de l'organe de concertation que nous allions laisser la primauté ou la priorité de l'initiative à ces deux cantons, les cantons d'abord demandeurs étant, ayant une position plus réservée, quoique enthousiaste s'agissant de la création de cette fondation, laquelle pourrait effectivement permettre une réelle solidarité au niveau roman entre les régions favorisées et celles qui le sont moins. Le gouvernement accepte donc cette motion, mais je tenais à vous dire que les discussions s'agissant de la réalisation de la concertation entre les cantons romans et de la mise en place d'un fonds d'impulsion économique fondé sur une solidarité de Genève au Jura est en branle, mais il s'agit bien sûr d'en développer toutes les modalités.
La motion n'étant pas combattue, nous allons donc voter. Les députés qui acceptent la motion numéro 277 sont priés de le manifester par levée de main. Majorité évidente, avis contraire, il n'y en a pas. Nous passons au point 16, motion numéro 278, contrat type de travail pour le personnel de la vente. Je donne la parole à monsieur le député Jean-Claude Prince.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, cette motion a été déposée du fait que l'Union des commerçants de Delémont avait refusé le 12 janvier 1987 d'entrer en discussion au sujet de la conclusion d'une convention pour les magasins de la place. Vu que le dialogue n'était pas possible dans la capitale et que les 150 entreprises de commerce de détail du canton ne sont pas constituées au niveau d'une association, il ne restait que le moyen que nous proposons pour établir un certain ordre en matière de conditions de travail dans ce secteur. Les vendeuses et les vendeurs seront très heureux d'apprendre que le gouvernement propose d'accepter cette motion visant à élaborer un contrat type de travail qui serait obligatoirement applicable au personnel des magasins qui n'ont pas encore conclu de convention avec le syndicat. Mesdames et messieurs les députés, vous connaissez les horaires auxquels sont soumis les travailleurs de la vente. De nouvelles contraintes les attendent, avec la volonté clairement exprimée des commerçants d'ouvrir davantage en nocturne ou le samedi entre midi et une heure, par exemple. Pourtant, parallèlement, les conditions de travail restent souvent très médiocres. Le groupe socialiste vous invite à accepter cette motion afin d'éviter les abus dont sont victimes les vendeuses et les vendeurs de certains établissements, et non des moindres. Faut-il rappeler que seuls, parmi les grandes surfaces, Coop et Migros, ont signé un contrat collectif avec la Fédération des travailleurs du commerce, des transports et de l'alimentation. Le Code des obligations et la Constitution cantonale nous autorisent à légiférer, et il n'y a dans ce cas pas d'autre solution pour combler les lacunes. Je vous remercie de faire un premier pas en adoptant cette motion qui permettra d'élaborer un projet de contrat type basé sur les conventions existantes.
La parole est au représentant du gouvernement, monsieur le ministre Jean-Pierre Beuret.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, le gouvernement accepte donc cette motion. Il est cependant conscient que sa réalisation n'ira pas sans difficulté, tant il est vrai que d'ores et déjà, les détaillants manifestent une opposition déclarée à toute forme de contrat collectif de travail. Le gouvernement peut néanmoins s'appuyer sur le fait que des mesures cadres ne peuvent avoir qu'un effet positif, d'une manière générale, sur les conditions de travail du personnel du commerce de détail et facilite les relations contractuelles. Le contrat type de travail devra néanmoins contenir un certain nombre de dispositions permettant d'élaborer des contrats individuels de travail, s'agissant notamment des horaires de travail différents, du travail à temps partiel, du travail partagé ou de toute autre forme d'aménagement du temps de travail en respectant bien évidemment les principes et les normes minimales qu'il contient ou que d'autres lois contiennent. Pour la réalisation de la motion, le gouvernement pourra prendre comme document de base l'arrêté récent du Conseil d'État valaisan établissant un contrat type de travail pour le personnel du service de la vente dans le commerce de détail. Ce document est complet, il est, je le rappelle, très récent et s'applique parfaitement à la situation jurassienne. La détermination des salaires minimaux pourra d'autre part se faire sur la base des conventions passées entre les organisations syndicales et quelques grandes surfaces de la région, notamment Coop et Migros. Le contrat type de travail établi par le gouvernement sera mis en consultation auprès des organisations concernées d'employeurs et de travailleurs et par la suite publié au journal officiel avant sa mise en vigueur. Nous pensons que cette procédure pourra être conduite dans le délai d'une année.
La motion n'étant pas combattue, nous allons donc voter. Les députés qui acceptent la motion numéro 278 sont priés de le manifester par levée de main. Majorité évidente, avis contraire, il n'y en a pas. Nous passons au point 17, interpellation numéro 182, tourisme dans le Jura. Je donne la parole à Madame la députée Mathilde Jolidon.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés. Le deuxième programme de développement économique proposé par le gouvernement et accepté par le Parlement le 1er juillet 1987 contient cinq domaines considérés comme fondamentaux. Le tourisme constitue un des éléments du développement économique du canton du Jura. Il est mentionné dans le programme, je cite, « des mesures particulières doivent être prises pour favoriser un tourisme respectueux du caractère et des particularités de la région ». Bien conçu, le tourisme peut constituer un facteur important du développement économique. Au chapitre D1, il est proposé d'élaborer un concept touristique pour l'État du Jura, afin de déterminer quel doit être le contenu précis de la politique jurassienne en matière de tourisme. Il est également prévu de confier un mandat d'étude à un institut spécialisé afin de déterminer l'impact du tourisme sur les branches économiques, les potentialités touristiques et les contraintes qui entravent leur concrétisation, etc. Une mesure importante également mentionnée dans le projet stipule l'élaboration d'une politique d'information à l'intention de la population afin de démontrer l'importance et le rôle d'un tourisme maîtrisé dans la vie sociale et économique de la région. Aujourd'hui, que se passe-t-il? Différents projets touristiques prennent naissance dans le canton. Certains représentent des investissements importants. Il y a les projets qui supposent une participation financière de l'État jurassien. Il y a ceux des promoteurs privés qui ne coûteront rien aux jurassiens, mais qui échappent au pouvoir politique. Devant cette situation, des conflits d'intérêts surgissent. La population se pose des questions et se divise parfois malheureusement, et cela au détriment du bien commun, et dans un désordre parfait. Le canton n'a jusqu'à ce jour rien entrepris pour planifier les réalisations. On vote des études pour ci, on subventionne pour cela, tout cela crée du désordre. Il faut certes considérer la mutation constante de la société, promouvoir une ouverture sur les loisirs, en l'occurrence le tourisme, et placer cet élément dans le contexte économique régional. Une réflexion sérieuse suivi d'une conception globale au niveau cantonal, s'impose au plus tôt. Ceci afin de préserver l'identité culturelle et politique de notre région et éviter les expériences malheureuses et irréversibles commises dans certaines régions de la Suisse. Face à ce problème, le gouvernement est-il disposé à concrétiser les objectifs fixés dans le programme économique, c'est-à-dire élaborer un concept touristique pour le canton, confier le mandat d'étude afin de connaître l'impact socio-économique pour notre région, concrétiser les lignes directrices qui existent pour l'instant seulement dans des programmes développement économique, LIM, aménagement du territoire, et enfin informer objectivement la population sur la politique touristique. Enfin, puisque je suis dans ce problème touristique, permettez-moi encore de vous interpeller, Monsieur le Ministre, pour savoir où en est le projet de loi sur le tourisme.
La parole est au représentant du gouvernement, Monsieur le Ministre Jean-Pierre Beuret.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, il semble exister une grande confusion quant au rôle de l'État dans la politique du tourisme ou dans l'organisation du tourisme au sens large. En fait, l'État ne peut planifier, vous le savez, que ses propres projets. Quant aux projets touristiques, ils relèvent, eux, exclusivement ou quasi exclusivement de l'initiative privée. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'État est prié d'intervenir, c'est au coup par coup, en fonction des projets qui lui sont présentés. L'État est interpellé au sens de la loi sur l'aménagement du territoire, comme les communes sont interpellées lorsqu'il s'agit de permettre l'installation de telle ou telle infrastructure à but touristique sur leur territoire. Il est donc extrêmement difficile de planifier le développement du tourisme et de déterminer quelles seront les infrastructures susceptibles d'être construites et celles qui plutôt devraient être refusées. Quant à l'impact économique du tourisme, il ne peut également pas être décrété. Il y a autant de sens, ou il y aurait autant de sens d'édicter des directives à cet égard qu'à vouloir en définir pour l'industrie des machines ou l'industrie horlogère, par exemple. Sans compter qu'un projet touristique avec un gros impact économique peut avoir des conséquences sur d'autres secteurs qui ne sont peut-être pas souhaités par la population résidente. Vous le savez, les efforts de l'État en matière de tourisme consistent à faire en sorte que le tourisme jurassien évolue vers un tourisme de séjour, au détriment, s'il le faut, du tourisme pendulaire que nous connaissons, qui cause beaucoup de désagréments et ne laisse que très peu de richesses dans la région jurassienne. Il est vrai, Madame la députée, que le deuxième programme de développement économique dit très clairement que des lignes directrices en matière de tourisme seront élaborées. Pour cela, nous sommes en discussion depuis un certain nombre de mois, depuis l'adoption de l'arrêté sur le deuxième programme de développement, avec différents instituts spécialisés en matière de développement touristique. Et suite aux discussions que nous avons, que nous entretenons depuis un certain nombre de mois, un mandat, vous venez de l'apprendre, vient d'être confié à l'Institut des hautes études économiques et sociales de l'Université de Saint-Gall pour examiner quelles pourront être ou quelles pourraient être les conceptions futures du tourisme jurassien en tenant compte des paramètres fixés tant par notre législation que par les conditions géographiques, climatiques, économique et sociale du Jura. Le mandat confié à l'Institut des hautes études économiques et sociales de Saint-Gall devra tenir compte d'un certain nombre de contraintes, mais aussi fixer les objectifs qualitatifs et quantitatifs que le Jura peut atteindre en matière de tourisme. Il devra surtout réfléchir quant aux orientations de la promotion touristique jurassienne de manière à tenir compte des impératifs d'un tourisme moderne au sens de ses relations avec un milieu naturel tel que le nôtre et ne pas nécessairement s'inspirer d'expériences de tourisme de masse qui ne sont sans doute plus réalisables ni souhaitables dans un environnement tel que le nôtre. Il s'agira également de déterminer quels seront les produits et les infrastructures touristiques à favoriser. Existe-t-il suffisamment d'arguments à développer ? Faut-il créer de nouveaux produits, développer de nouveaux secteurs ? Ce sont des questions auxquelles il faudra répondre. Et puis, il sera intéressant de connaître l'appréciation de cet institut sur l'organisation du tourisme jurassien. Le fonctionnement de nos institutions touristiques est-il adéquat ? Doit-il être amélioré, développé ou orienté d'une autre manière ? Voilà en gros quelles sont les questions que nous nous posons. Il n'en reste pas moins que l'évolution nous apporte chaque jour, chaque semaine, chaque mois, de nouveaux projets, de nouveaux dossiers, qu'il s'agit d'étudier en fonction des dispositions légales à notre disposition, en fonction de l'orientation de ces différents projets, en fonction surtout de leurs retombées économiques. Car en fait, il faut surtout, dans une région comme la nôtre, en proie depuis des générations à un tourisme pendulaire qui, je le rappelle, apporte davantage de nuisances que de profits, il faut trouver la solution pour que les installations touristiques que nous accepterons et que nous, dont nous favoriserons la mise en place dans le Jura aient le maximum de retombées économiques dans nos différentes régions. Je crois que les objectifs sont assez clairs. Il s'agit maintenant de déterminer la manière de les atteindre et surtout, puisque nous sommes dans un secteur où la relation avec l'économie privée est prioritaire, surtout d'établir avec des promoteurs privés les relations qui permettront à ces promoteurs de réaliser les infrastructures souhaitées aux endroits où elles permettront d'obtenir le maximum de retombées économiques pour le Jura.
Madame la députée Mathilde Jolidan, êtes-vous satisfaite ? Monsieur le ministre.
Nous avons plusieurs lois en route actuellement, excusez-moi cette omission. La loi sur les auberges, qui est en passe d'être transmise maintenant au Parlement, a un certain nombre de relations avec la législation sur le tourisme. Cette législation sur le tourisme a fait l'objet d'une large consultation. Elle est à présent en passe d'être élaborée définitivement pour être examinée une dernière fois par le gouvernement avant d'être soumise au Parlement. Je crois que dans les mois à venir, elle pourra être remise aux instances parlementaires. Donc donnons-nous jusqu'à l'été en mai.
Madame la députée Mathilde Jolidan, satisfaite. Madame la députée Mathilde Jolidan est satisfaite. Nous passons au point 18. Arrêté octroyant une subvention à Caritas Jura pour le financement de travaux par des chômeurs. La parole est au président de la commission de gestion et finances, monsieur le député Charles Racourdon.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les députés. La commission de gestion et des finances a examiné, lors de sa séance tenue le 25 février, en présence de Monsieur le ministre Jean-Pierre Beuret, le dossier relatif à la subvention cantonale de 312 525 francs en faveur de Caritas Jura. Brièvement, en complément au message que vous avez reçu, j'ai à vous communiquer les quelques données suivantes concernant l'octroi de cette subvention. Il convient avant tout de relever le rôle positif, de même que l'effort important accompli par Caritas Jura en faveur des chômeurs les plus défavorisés. L'action entreprise permettra à quelques 80 personnes de trouver temporairement un emploi et de ce fait de bénéficier d'un revenu. L'aspect humain est à considérer en priorité. L'initiative de Caritas Jura s'inscrit dans le cadre du secours de crise. Les travailleurs concernés par ce plan d'occupation étant ceux arrivés au terme des prestations de chômage. Le système retenu sollicite les prestations financières du canton pour 30% de l'engagement global. Les autres apports étant, pour l'essentiel, Caritas Jura par ses activités propres, l'OFIAM, les collectivités locales concernées par leurs ressortissants qui émargent au fonds de crise, quelques autres contributions. Cette structure évite d'institutionnaliser le traitement du chômage. Enfin, la subvention est annuelle et découle d'un budget dont vous avez pu prendre connaissance puisqu'il accompagne le message. La Commission a pris connaissance des prestations fournies aux personnes occupées dans le cadre du programme élaboré. Nous nous sommes assurés en particulier de la couverture sociale des intéressés et avons reçu à cet effet toutes les assurances souhaitées. En conclusion, la Commission de gestion et des finances vous recommande à l'unanimité de ses membres l'entrée en matière et l'acceptation de l'arrêté portant sur l'octroi d'une subvention de 312 525 francs à Caritas Jura.
La parole est au représentant des groupes. Monsieur le député. Jean-Pierre, excusez-moi. La fatigue est dans.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, le groupe socialiste votera la subvention de 320 000 francs pour Caritas. Le rôle d'une institution de ce type, le Président l'a rappelé tout à l'heure, en faveur des plus mal lotis de la société est très méritoire et apprécié à sa juste valeur. Actuellement, vous le savez, Caritas a l'intention, pour son bon fonctionnement, d'aménager un atelier à Montcroix. Avec le projet, il serait possible notamment d'économiser 1500 francs par mois de location pour les trois dépôts à Delémont, rue de Tèche, Kourou et Courtetel, qui seraient ainsi plus utilisés. En octroyant 320 000 francs, les pouvoirs publics participent financièrement au bon fonctionnement de cette institution, ce qui est justifié. Malheureusement, nous avons appris par la presse que 5 habitants du quartier s'opposent à l'aménagement d'un atelier pour les chômeurs jurassiens en détresse. Toutefois, 83 citoyens des alentours sont favorables au projet, puisqu'ils considèrent que les allégations faisant état de nuisances quelconques pour les raisons du projet donc sont infondées. Le bruit occasionné sera minime, voire inexistant. Le groupe socialiste demande aux représentants du gouvernement s'il est au courant de ces tracasseries quelque peu mesquines, pour ne pas dire fantaisistes, mais malheureusement pas sans conséquences fâcheuses pour l'œuvre de Caritas Jura.
La parole est aux autres membres de la commission, monsieur le député Marcel Frézard.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, le groupe PCSI se réjouit du dynamisme apporté par Caritas Jura, en particulier dans la lutte contre les effets du chômage. Il considère donc avec satisfaction la proposition du gouvernement d'octroyer par arrêté une subvention qui permettra à Caritas Jura d'accomplir sa mission dans des conditions matérielles décentes. Notre groupe rejoint également la position exprimée tout à l'heure par le député Charles Racordon, président de la commission de gestion et des finances, et souhaite voir la subvention en question être votée massivement. Nous ne pouvons, par contre, nous empêcher de vous faire part de la réflexion suivante. Le chômage existe. Combattre ses effets, c'est bien. Préparer un chômeur à un nouvel emploi, c'est mieux. Et cela nous paraît nécessaire.
En effet, s'il faut constater l'amélioration de la situation d'un sans-emploi dès le jour où il retrouve une occupation, un engagement, un salaire, un droit même à de nouvelles allocations, c'est un pas qui est fait. Or, pour ceux qui reconnaissent à toute femme et à tout homme sa dignité, ses droits, dont le droit au travail, il convient d'aller plus loin, de faire des pas supplémentaires, au-delà de la ligne d'arrivée, selon une terminologie olympique récente. Ce qui manque à notre sens et qui est à créer dans le Jura, c'est une orientation professionnelle ouverte aux chômeurs adultes également, et des conseils de professionnels à l'heure de la décision ou du choix. Ce devrait être ensuite, même si ce n'est pas simple, la mise sur pied d'ateliers de formation ou de recyclage, éventuellement avec rétribution des participants. Alors seulement, pour beaucoup de chômeurs, les chaînes seront brisées, le cercle vicieux rompu, les relations familiales grippées prendront une nouvelle tournure et Caritas Jura aura été un carrefour, mais un carrefour des plus utiles. Pour l'immédiat, cependant, le groupe PCSI acceptera, comme déjà annoncé, l'entrée en matière et la subvention prévue dans l'arrêté.
La discussion générale est ouverte. Monsieur le député Max Götzmann.
Je suis évidemment aussi pour l'entrée en matière et je soutiens ce qui vient d'être d'ici à la tribune. Et pour aller un petit peu dans le... faire un prolongement par rapport à ce que vient de développer Marcel Frézard, et puisque on fait référence dans le message à notre postulat 59, j'aimerais dire que, bon, ces mesures sont évidemment excellentes, mais que pour autant qu'elles ne répondent que partiellement à ce postulat, qui, je le rappelle, demandait qu'on établisse un catalogue, qu'on établisse un inventaire de différents domaines qui échapperaient d'ailleurs éventuellement au secteur marchand, mais qui pourrait donner lieu soit à des créations d'emplois ou alors à des possibilités de travail du style de ce qui nous est proposé maintenant. Donc un inventaire de ce que les Français appellent des friches d'emplois. Donc cet inventaire reste à faire. Je sais que le canton a pris des contacts pour essayer de trouver des gens qui seraient d'accord d'établir cet inventaire, notamment auprès d'étudiants, et il s'est attiré, il y a eu un échec dans la mesure où l'étudiant ou l'étudiante de l'université de Neuchâtel, sauf erreur, qui avait été pressenti, s'est dégonflé, entre guillemets. Simplement, je pense qu'il y a encore beaucoup d'autres étudiants en économie qui pourraient être intéressés, et ça vaudrait vraisemblablement la peine de continuer de chercher l'oiseau rare.
La discussion générale continue. Elle n'est plus utilisée, elle est close. Le président de la commission.
Juste une petite précision, j'ai parlé dans mon exposé tout à l'heure de 312 525 francs, c'était la subvention demandée. En réalité, l'arrêté porte sur 320 000 francs, ce montant a été arrondi, ça représente le 30%.
Monsieur le ministre, vous avez la parole.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, tous les rapporteurs de la Commission et des groupes en conviennent. La collaboration avec Caritas pour cette tâche précise constitue une véritable aubaine pour la collectivité publique. En fait, Caritas, par cette œuvre, accepte de s'occuper des personnes au chômage qui connaissent les plus grandes difficultés, pour diverses raisons, à retrouver un emploi. Et le travail exécuté dans le cadre de l'organisation de Caritas a déjà été couronné de succès pour des dizaines de chômeurs parmi les plus défavorisés, lesquels ont pu se réinsérer dans le tissu économique et social. Cette initiative n'est cependant pas la seule, et je réponds ici à M. le député Frézard, n'est cependant pas la seule prise pour aider les chômeurs à retrouver du travail, car c'est enfin, en fait, le but qu'il s'agit d'atteindre. Au sein du service des arts et métiers et du travail, deux personnes, dont une engagée l'année dernière, financée par le fonds de crise, sont occupés en permanence à assister les chômeurs dans la recherche d'un nouvel emploi. Il s'agit bien sûr de trouver des solutions individuelles, car il n'est pas possible de généraliser le phénomène lorsqu'on a affaire à des personnes d'horizons professionnels ou sociaux très différentes et dont les ambitions, dont les orientations de vie sont également très différentes l'une de l'autre. C'est la raison pour laquelle il s'agit de travailler avec beaucoup d'humanité, avec beaucoup de patience, mais aussi avec beaucoup de pragmatisme et de rigueur pour aller d'avant. Les résultats, je crois, se font tout de même sentir, puisque depuis l'automne dernier, le nombre des sans-emploi baisse constamment, et au mois de février, les chiffres viennent de m'être communiqués, le chômage a également baissé chez nous de manière remarquable. Il va sans dire que le bureau de l'orientation professionnelle est également ouvert aux personnes, quel que soit leur âge et quelle que soit leur situation, qui recherchent un emploi. Ceci est rappelé de temps à autre, mais évidemment que l'office ou le bureau de l'orientation scolaire et professionnelle n'est pas exclusivement ouvert aux jeunes en scolarité ou à la fin de leur scolarité. Quant aux travaux et aux cours collectifs qui peuvent être organisés pour aider les chômeurs à se perfectionner ou à travailler de manière intérimaire en faveur d'une commune ou d'une institution, ils sont assez difficiles à organiser. Nombreuses ont été les communes qui ont essayé de mettre en place des cours pour occuper des personnes au chômage ou des travaux qui leur sont destinés. La spécialisation professionnelle des personnes étant difficilement conciliable pour organiser des travaux ou des cours collectifs, très souvent, ceux qui organisent ces cours se heurtent à beaucoup de difficultés. C'est la raison pour laquelle, avec les services de l'État, les chômeurs sont surtout orientés vers des cours individuels, qu'il s'agisse de cours de langue ou de perfectionnement professionnel dans tous les secteurs qu'on peut aborder. Et ces cours individuels sont ceux qui apportent les meilleurs résultats. Évidemment que les remèdes miracles n'existent pas, néanmoins ce travail patient qui consiste à assister personnellement, individuellement, les chômeurs à la recherche d'un nouvel emploi, à les orienter vers des solutions qui pourront être acceptables pour eux, est sans doute une des formules qui mérite d'être poursuivi, le cas échéant, développé. Monsieur le député Petignan nous interpelle au sujet d'une question qui nous échappe totalement, celle de la mise en œuvre d'un atelier dans une zone de la ville de Delémont entourée d'habitations. La ville de Delémont a donné son feu vert pour la création de cet atelier de Caritas Jura. Nous savons que un certain nombre de riverains ont déposé un recours devant le tribunal. Il appartient au tribunal à présent de se prononcer. Pour notre part, nous espérons simplement que ce conflit sera réglé rapidement et que les activités de Caritas ne seront pas entravées trop longuement par cette procédure.
L'entrée en matière n'étant pas combattue, nous passons à la discussion de détail. Article 1er, discussion. Accepté. Article 2, discussion. Accepté. Article 3, discussion. Accepté. Article 4, discussion. Accepté. Article 5, discussion. Accepté. Titre et préambule, discussion. Accepté. Nous allons donc voter. Les députés qui acceptent l'arrêté sont priés de le manifester par levée de main. Majorité évidente, avis contraire, il n'y en a pas. Nous voici arrivés au terme de cette séance. Je vous remercie de votre engagement lors des débats. Je vous souhaite une excellente soirée et surtout une bonne rentrée chez vous. Merci.